dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 73, c'est parti. Bienvenue dans DLT.
Bonjour Salman.
Ça va Daz?
Ça va très bien.
On se retrouve, j'ai envie de dire, une fois, un mercredi sur deux, comme d'habitude, tous les 15 jours.
Oui, il y a quelques petits hiatus dans le cadencement. Hein.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop enregistré ces derniers temps, mais les gens n'y voient que du feu. Ils ont bien leur épisode tous les 15 jours, tout va bien, Daz.
On a réussi à tenir la cadence quand même, avec des épisodes d'avance.
Oui.
C'était un souhait. Hein.
C'est absolument, on voulait avoir un peu d'avance et on va pas spoiler, mais on commence bientôt on aura bientôt bouclé cette saison, je pense. Les gens sont tristes là avec ce que je viens d'annoncer.
Ah.
Il y aura une très légère pause, je pense qu'il y aura peut-être, franchement, sur un mois, il y aura peut-être un seul épisode au lieu de deux. Et on reviendra, tu vois, je pense un truc comme ça.
Quand on reviendra, on vit des temps troublés. Hein.
C'est pas faux, c'est vrai.
Il y a un potentiel non nul qu'en fonction de qui passe.
Il y aura peut-être un changement.
Changement de cast, on aura Flavien et Sam. Et encore même Sam, à mon avis, va être dans le mal. Donc il va falloir trouver d'autres gens, mais bon, on va se démerder.
Écoute, je sais pas si Olivier sera encore là, mais en tout cas, aujourd'hui, il est là, Olivier de Levagne, notre invité.
Bah ouais, bonjour, Olivier. Bien sûr, je suis content de m'être mis dans votre cadence. Très bien. Ça me fait plaisir, vraiment.
Oh. Bah oui, tu es dans le tempo.
Ah bah si, vous savez, le rythme, c'est important dans la musique. Hein.
Absolument. Olivier de Levagne, je le disais, on va parler avec toi d'un sujet qui te passionne, et t'as raison, parce que c'est un sujet passionnant.
Merci.
Et c'est le rapport aux technologies dans le monde musical de manière générale, surtout chez les compositeurs, parce que tu es toi-même compositeur.
Oui, il en faut.
Bon, c'est un métier plutôt agréable.
C'est un super métier, c'est le plus beau métier du monde, d'être sur les bons rails, sur les bonnes branches, même quand la branche est un peu pourrie.
Ouais. Ah, après, il y a les affres du métier aussi qui vont avec, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, tu en parles dans un bouquin que t'as sorti récemment, qui s'appelle « Création musicale et technologie du chaman au slasher ». Et le nom est assez équivoque. Enfin, chaman et slasher, moins, mais ça, on en parlera. Mais par contre, pour le reste, on comprend que ça parle de technologie et de musique. Et tu développes ça de plein de manières dans ce bouquin, à la fois eh bien, comment les compositeurs, leur métier a changé, ce qu'ils doivent faire, leurs pratiques ont évolué avec le temps, évidemment à l'ère du numérique aussi, de maîtriser les réseaux, etc. L'entrepreneur dont on parle parfois en tant que musicien, artiste, compositeur en particulier. Et puis il y a aussi tous les aspects de l'évolution technique des outils, des lieux où on enregistre, et également de la façon dont on écoute la musique, les impacts que ça a, tout ça. Et c'est des sujets dont tu parles dans ce livre.
Absolument, bah merci. Donc à la semaine prochaine, le livre est parfaitement résumé. Oui, absolument. Alors, sur un aspect très sérieux, j'aimerais que ce soit le premier ouvrage sur l'écosystème de la production musicale en France, puisque ça, en fait, ça n'existe pas d'être rassemblé, mais que je donne de mon point de vue de compositeur, évidemment nourri par mon expérience. D'autres pourront avoir vécu les choses différemment ou avoir un autre point de vue. Bon, enfin, en tout cas, ça c'est le mien. Et ce côté, comme tu l'as dit, technologie. Alors technologie, le mot est pas bon. C'est un anglicisme. Il faudrait dire technique, mais tout le monde comprend technologie. Pour faire très très court, nous les musicos, on aime bien le matos. Voilà. Donc c'était l'idée centrale. Et comment ce matériel et les nouveaux matériels. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai commencé à faire de la musique professionnellement. Je vais pas dire la date, mais je vais dire que c'était une époque où il était presque facile d'accéder aux premières lutteries électroniques, aux synthés, aux premiers ordinateurs. Donc c'est un booster énorme sur les idées, la création. On découvre des choses, on n'a même pas idée de ce que ça peut faire, et de voir comment ça te donne la pêche, la niaque, comment ça te pourrit aussi la vie, comment ça te vrille la tête. Ça, c'est pour le côté effectivement matériel. Et puis un truc indissociable de mon point de vue, qui est le côté de la professionnalité, comment fonctionne le business, l'idée étant de dire moi, je fais aussi ce métier pour en vivre.
C'est intéressant, parce que c'est une approche très DLT, ça, Daz, de mêler à la fois les aspects artistiques
et business,
de pratique, et puis aussi des réalités d'un métier.
Bien sûr,
c'est l'argent, Daz.
Mais oui, l'argent.
L'argent. Non, bien sûr. C'est marrant d'ailleurs, parce que on avait fait le stream où on écoutait les prods.
Oui, on a fait effectivement avec Monte-le-Son récemment un concours de prods. On a écouté les prods des gens et des gens font partie des cadeaux.
Énormément, en fait, de gens ont une approche de sound design.
Ouais, c'est vrai.
Presque plus technique que la composition musicale à proprement parler.
Ça, c'est un sujet passionnant. Tu as raison. Mais d'ailleurs, c'est déjà, c'est quand même notre audience peut-être peut jouer déjà dans une.
Ouais. Parce que on a relevé les commentaires dans le chat où ils disent oui, ça manque un peu de reloop. Oui, moi, je l'aurais mis à 3 kHz de manière à ce que tu vois, ça fasse un double phasing dans la. Ok, mais sinon les notes, ça va les notes ou pas? Genre.
Non, mais c'est vrai que c'est un sujet. On peut pas l'aborder parce que là, limite, ça pourrait faire toute une émission. Mais l'idée que aujourd'hui pour proposer une musique un peu différente que celle que l'on proposait auparavant, c'est pas forcément par l'harmonie, par les accords qu'on va utiliser, par la composition, l'arrangement, etc., qu'on va se distinguer, parce que beaucoup de choses ont été faites, même si on peut encore. Mais c'est aussi par les textures, les timbres particuliers qu'on va utiliser, etc., et qui vont un peu renouveler quand même l'approche musicale. Olivier, un petit mot là-dessus rapidement.
Ouais. Alors en fait, c'est pas du tout nouveau. C'est très, très, très ancien ce concept. En fait, bien sûr, il y a l'approche dans la musique, l'approche de la note, l'approche de l'harmonie. Donc on pourrait retracer tout. L'histoire de la musique et les évolutions pour arriver à notre musique tonale, tempérée, européenne, voilà, avec un.
Il y a un
demi-ton entre chaque note. Il y a dans d'autres civilisations l'approche microtonale, mais nous, en tout cas, on est calé sur ça. Et en même temps que ce courant-là prenait toute sa force en Europe, les grands symphonistes allemands, Bach, il faut toujours citer Bach et De Gaulle j'ai commencé par Bach, je vous parlerai de De Gaulle.
Je connais pas les prods de De Gaulle.
Oui, alors, tu vas voir, tu vas tomber.
De Gaulle beat.
Et y a... De Gaulle type beat.
Et il y a eu une école française, un courant musical qui s'est développé dans les années 60-70, qui était l'école spectrale. Alors, c'est pas la musique des fantômes. C'était de dire, on va s'attacher non plus à la note en elle-même, mais à son timbre. Mmh. Alors, le concept de timbre en musique, c'est un truc, c'est 5 boîtes de Doliprane si tu commences à rentrer dedans. Mmh. Mais par exemple, un des premiers compositeurs qui a eu l'approche du timbre, c'est Debussy. Puisque Debussy, il a découvert, à la faveur d'une exposition universelle, l'arrivée d'un gamelan balinais. Et donc, ça a un peu bouleversé tout ce qu'il savait de son approche académique.
C'est quoi, l'arrivée d'un quoi, tu as dit?
D'un gamelan balinais.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Piano.
Donc, le gamelan, c'est l'orchestre traditionnel balinais, où il y a des instruments de percussion, des instruments avant, donc il y a une quarantaine de personnes, et tout le monde joue en même temps une musique qui est atonale et qui emmène dans d'autres perspectives, surtout pour un Européen en 1900, qui a jamais entendu ce genre de choses. Et lui, tout d'un coup, s'est dit, mais comment je peux rendre cette impression musicale avec mon putain de clavier tempéré et ma gamme? Et il a commencé à chercher des combinaisons, évidemment, scandale à l'époque. Ensuite, ce courant a évolué. Donc, il y a eu Messiaen avec les chants d'oiseaux. Il y a eu tous les Français, Satie, Ravel. Et on arrive dans les années 60-70 avec le courant spectral, donc décrit par Hugues Dufour, qui dit justement, voilà, nous, on va s'attacher à cette notion de timbre. Et si on tire le fil jusqu'au bout, on voit que ce côté timbre, c'est vraiment l'approche du sound design et du son. Mmh. Et comment je refais un son? Comment je sample une percussion et je peux la tuner ou la détuner ou modifier les sons? Là-dessus arrivent les sampleurs, on tourne la chose et surtout l'arrivée du numérique. Et ça, c'est le grand courant.
C'est pour ça que ce rappel que je ne maîtrisais pas bien d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a par contre eu un changement qui effectivement, avec les solutions numériques, une facilité d'accès et tout à chacun peut s'en emparer. Et donc, c'est beaucoup plus présent dans la culture populaire et dans la musique populaire.
Absolument. Ce qu'a permis vraiment le numérique, et notamment une synthèse sonore qui est la synthèse à modulation de fréquence, la synthèse FM, dont un des avatars les plus connus, c'est le synthétiseur Yamaha DX7, synthèse FM, ou le Synclavier, c'est d'avoir un découpage du son extrêmement fin, extrêmement précis, microscopique, puisque du coup, c'était numérisé avec des fréquences d'échantillonnage, donc 44 000 petits tronçons sur un mot. Bon. Et ça permettait d'appréhender le son et de travailler de la matière sonore. Alors, on pouvait avoir un côté extrême en disant on s'affranchit totalement de la notion de tonalité et on part dans des choses expérimentales, et il y a une bifurcation sur le courant de la musique concrète, donc faite avec les sons du monde qui nous entoure. Donc ça, c'est Pierre Schaeffer, Pierre Henrouille, le courant spectral. Après, les modes de composition en musique sérielle, on fait des séries de notes. Xenakis, qui était en plus mathématicien, architecte, faisait des... Bon, bref, il y a des trucs écoutables, des trucs complètement inécoutables. Entre les deux, il y a un curseur dans lequel on se balade, et ça, c'est super. Et puis après, la musique populaire rentre là-dedans, au milieu de ses conceptions intellectuelles. et avec l'arrivée d'outils complètement délirants, reprend les choses à son compte, et on a plein de gens qui font, sans le savoir, de la musique spectrale. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une bonne introduction, parce qu'on voit déjà là la place de la technologie, l'évolution dont on travaille, pour travailler avec les sons, etc. Je précise quand même, avant, déjà ce bouquin est récent, tu l'as sorti il y a quelques mois.
Oui, au mois d'avril, au mois de mars. 2024, faut donner la date parce que vous avez placé un contexte là. Donc quand les gens regarderont cette émission dans
15 ans sur l'INA,
de toute façon ils nous verront, ils diront ça, c'était avant le grand chambardement.
Mon Dieu.
Mars 2024, hein, nous on est en juin là, hein, on est encore là, voilà.
Et d'ailleurs, attends, quand sera diffusé cet épisode, est-ce que déjà on saura?
Ça sera après.
Ah.
On fera des pronos.
On va faire ça.
Très bien.
Peut-être à la prochaine fois, peut-être.
Peut-être.
Oui, on va donner justement une dimension procédurale appliquée dans des musiques électroniques, côté aléatoire, et on va faire un pronostic procédural. Nous allons établir une procédure avec des bases de calcul, et si on est encore bon à la fin de l'émission, on pourra donner un résultat avec une marge d'erreur de 1 à 130%.
C'est incroyable, la musique, ça sert à tout, même pour ça. Oui, je précise aussi que c'est aux éditions universitaires de Dijon, qui est la structure éditoriale de l'université de Bourgogne. Donc c'est un peu sérieux en théorie.
C'est super
sérieux. Ils sont laissés facilement éditer, facilement édités chez eux.
Alors en fait, le sujet, ça s'est fait à la faveur d'une discussion avec le directeur du département musicologie de l'université de Bourgogne, qui est aussi directeur adjoint de l'édition musicale, Philippe Gonin. Et je lui disais, tu vois, il manque un bouquin qui soit aussi sur le music business, mais avec une approche de terrain, pas une enquête journalistique.
Un truc empirique.
Quelqu'un qui raconte sa vie. Il me dit, oui, mais tu sais, nous, édition universitaire, on n'écrit pas des livres de témoignages ou des choses comme ça. Il me dit, mais si tu peux prendre un angle référencé, documenté, pourquoi pas, fais-nous une proposition.
C'est vrai qu'on voit ça, on le retrouve dans le bouquin, c'est qu'à la fois tu t'appuies sur ton expérience, tu cites clairement des choses qui te sont arrivées, etc.
Sûr, ouais.
Et en parallèle, tu peux avoir, et on peut traiter des notions plus abstraites, entre guillemets, ou en tout cas avec un regard plus extérieur et analytique.
Alors concrètement, création musicale et technologie. Ouais. Parce que moi, tu me dis création musicale et technologie, je pars pour 3000 pages. Or, soit c'est imprimé tout petit,
soit c'est 150
très condensé,
à peu près, je crois.
Parce que ça va.
De toute façon,
180 pages.
C'est vraiment une espèce de panorama que tu as cherché à proposer, qui donne une vision globale. J'imagine qu'on peut rentrer bien plus dans les détails, mais et déjà qui s'intéresse. Ça limite un peu l'audience, j'imagine.
Je voulais pas justement écrire un ouvrage de référence. Moi, je suis pas là pour établir des références en musicologie. Je voulais que ce soit plus dans l'idée d'un essai autour de ces questions et de mon expérience, comme on l'a dit, tout en ramenant ça dans la réalité opérationnelle de beaucoup, sans pour autant faire un guide pratique comment gagner du pognon en faisant du streaming, mais au moins présenter les choses. Et en plus, c'est une collection, donc on a une question de format. Donc il fallait que ça rentre.
Ouais, tu peux pas avoir un truc qui dénote
avec pied, voilà. Donc il fallait être dedans.
D'ailleurs, c'est ce que je te disais. Ouais, pardon, vas-y.
Non, mais bon, faut quand même arriver au bout, hein.
Oui, c'est le seul. C'est-à-dire que le bouquin est vraiment passionnant. Il aborde plein de sujets. Il y en a certains qu'on peut connaître quand on est musicien, d'autres non. Donc c'est bien parce qu'on peut picorer aussi des choses qui nous intéressent, parce que c'est classé aussi par sujet globalement.
C'est quand même écrit relativement.
Par contre, c'est vrai que c'est un peu abrupt dans l'approche.
Nos viewers, c'est quand même écrit petit.
C'est pour les vrais passionnés.
Il n'y a pas d'image.
Alors ça aurait pu servir en vrai le propos.
Ouais. Mais tu sais quoi, il y a du son. En fait, je fais référence à beaucoup de sujets, beaucoup de musique, beaucoup d'œuvres dans ce livre, et il y a une playlist de toutes ces références. Dedans, tu vas trouver aussi bien les Daft Punk, Kellyanne Radig, que Xenakis, ou encore des titres pop dont je parle. Donc si un dimanche pluvieux où t'as 6h30 devant toi, tu peux écouter la playlist.
Puis je précise quand même, Daz, c'est que c'est dense, ça peut paraître fastidieux, mais par contre, c'est facile à lire.
Oui,
c'est écrit de manière relativement simple, c'est accessible. Merci. Donc ça, il n'y a pas de souci.
Oui, de toute façon, moi, la lecture ne me fait pas peur.
C'est une bonne chose, Daz.
La lecture ne me fait pas peur.
C'est toujours utile, la lecture. Je précise quand même, Olivier, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de cette émission, qu'on organise nos parties, etc., le petit classique DLT d'Az, bah que...
présentation, peut-être.
Bah oui, petite présentation, parce que, donc je le disais, tu es compositeur, tu as travaillé sur des documentaires, des téléfilms, du cinéma, beaucoup de théâtre, surtout, il me semble.
Aussi, oui.
T'as fait aussi un peu de chansons, mais avec, alors j'ai été étonné avec des gens comme Richard Gottener, comme Henri Dess. Ouais. T'as bossé avec Henri Dess,
oui,
incroyable.
Mais oui.
Avec Richard Gottener, sur quel morceau?
Alors, Richard Gottener, donc c'était sur l'album Tendance Banane.
Okay.
Qui était un album de 95, 97, avant l'an 2000.
D'accord.
Donc, je dirais, voilà. Et on a fait, il y a un titre qui est dans l'album qui s'appelle Commerçant du Faubourg. Et avant, avec Richard, on avait travaillé sur une collection qui avait été lancée par les éditions Atlas, qui s'appelait Les plus belles chansons françaises, où l'idée c'était de faire des covers de chansons françaises de 1900 à nos jours, donc un album par année. Donc il y avait Richard, il y avait beaucoup d'autres interprètes, une armée d'arrangeurs, et les disques sortaient. Et cette petite collection, donc qui était fin des années 90, a vendu, je crois, 25 millions de disques. Voilà. Ouais, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Richard. Alors, c'était un peu l'usine, et puis bah on a
un peu.
Ouais, un peu, mais c'était vraiment très marquant, et c'est un peu cette collection qui a donné le point de départ, parce qu'évidemment les maisons de disques ont été saisies d'effroi en voyant ça, en disant mais pourquoi nous on fait pas ce truc là. Donc se sont mis à ressortir des compiles, et même des émissions de télé ont vu le jour en exploitant ces chansons anciennes. Je pense notamment à La Fureur et toutes les émissions d'Arthur.
D'accord.
Très bien. Tu composes aussi d'ailleurs pas mal pour de la musique d'illustration, si je dis pas de bêtises.
Oui, absolument. Alors, musique d'illustration, librairie musicale, musique, production music pour les Anglais, ou appelé parfois méchamment musicomètre. Alors qu'en fait, je fais un petit peu de spoil du bouquin, parce que je fais un grand chapitre sur cette question-là. Musicomètre, en fait, c'est historique. C'est à une époque on enregistrait les enfants la musique sur bande magnétique. Si, figurez-vous. Et pour connaître la durée du morceau, on mesurait la longueur de la bande. Un magnétophone qui tourne à 38 cm secondes, on sait que quand il y a 38 cm de bande, il y a une seconde. C'est pour ça que ça s'est appelé musicomètre, parce qu'elle était calée dans l'audiovisuel.
Donc c'était même pas péjoratif, en fait.
Pas du tout, mais ça a été dévoyé autour de ça. Ouais. Musicomètre, musicokilomètre, musique d'ascenseur. C'est de la non-musique.
Parce qu'on précise, donc, derrière le terme musique d'illustration, en fait, c'est des albums même qu'on peut sortir. Alors souvent en lien, par exemple, les majors le proposent. Ouais, je crois que c'est le cas, tu bosses avec Universal,
absolument,
par exemple.
Absolument, mais tous.
Et en fait, on fait appel à des compositeurs qui ensuite n'auront plus les droits directement d'auteur dessus. Ça appartient à la major, si je dis pas de bêtises.
Le droit d'auteur est inaliénable et accessible en France.
Excuse-moi. Ce serait plutôt autour des droits voisins à ce moment-là.
Non. C'est qu'en fait, la question, c'est l'idée.
C'est pas en ton nom, c'est ça que je veux dire, en fait.
Oui, parce qu'il n'y a pas de sujet. Ouais. C'est du business to business. L'idée, c'est de fournir une musique à des utilisateurs. Donc, les utilisateurs sont plutôt, des producteurs de films, d'audiovisuel. C'est grosso modo l'audiovisuel qui ont besoin de musique pour leur programme, mais effectivement c'est compliqué, ou pour des questions de budget ou pour des questions de temps, de faire une musique originale, et c'est compliqué pour des questions de budget d'acheter les droits d'une musique dite du commerce, parce qu'il y a beaucoup d'ayants droit. Donc cette musique a la particularité d'être pré-clearée, pour le mot, en tout cas les droits sont simples à négocier, et ça se fait en 5 minutes. Et du coup, il y a des catalogues. La musique, ça existe depuis le début du disque, ce genre de musique d'ambiance. Alors, les catalogues sont énormes. Toutes les compagnies multinationales ont des catalogues gigantesques de ces musiques, avec une éditorialisation très précise. Un genre, parce que quand on dit rock, rock, quel rock? Du rock, du grunge, du rock alternatif, qui permettent de trouver les choses.
Et l'idée, c'est qu'ensuite, des entreprises, notamment, viennent piocher dans ce catalogue.
Et utilisent et synchronisent cette musique à leur programme. Et du coup, évidemment, à un moment donné, l'histoire se renverse, et il y a quelques DJ qui tombent par hasard sur ces disques qui n'avaient pas vocation à être dans le commerce, qui samplent, ils disent « Ah, ça c'est marrant !» Et c'est comme ça que certains compositeurs se retrouvent sur des albums de Dr. Dre.
Ouais. On en a parlé lors de l'épisode avec Nit, l'un des derniers épisodes avec Nit. On avait parlé de Library Music et comment ensuite ça a été pillé. Parce qu'en fait, il y avait des perles, même si c'était avec une fonction utilitaire, entre guillemets, à la base. En fait, il y avait des super musiciens.
Il y a un groupe français, donc des musiciens français qui avaient fait des disques comme ça. Et ça a commencé à marcher au-delà de l'utilisation. Donc le groupe a trouvé un nom, il s'appelait Space. Il a commencé à avoir des tournées partout dans le monde. Pierre-Alain Dahan, Marc Chantreau. énorme. Et il y a même beaucoup de compositeurs de musique de film très connus, très célèbres, qui ont fait ce genre de musique dans des catalogues. Certains l'ont assumé, d'autres moins. Ça, c'est un peu le réflexe français. Mais chez les Américains, c'est évident qu'on trouve des catalogues avec des musiques de John Williams. Et n'importe qui fait un film peut avoir une musique de John Williams. Ça sera juste pas une musique originale. Et effectivement, Jean-Michel Jarre m'a fait l'amitié de faire la préface de ce livre. Et lui-même, à ses débuts, a fait un album justement d'utilisation de ce genre de musique, un album mystérieux qui s'appelle Deserted Palace, qui était fait pour ça.
Tu vois, Daz, il y a déjà de l'expérience musicale, mais il faut ajouter à ça en plus. Parce qu'il s'arrête pas là, Olivier, il fait plein de choses. Non, c'est qu'en fait, t'as d'une certaine manière une autre casquette, puisque tu as investi, tu as un intérêt global pour l'écosystème, en fait, musical. On comprend d'ailleurs. Et en fait, ça explique aussi le bouquin. C'est que, tu mets les mains dans le cambouis, tu as été administrateur de la SDRM, par exemple, la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique. En gros, c'est un organisme lié à la SACEM, c'est un peu compliqué, mais voilà. Aujourd'hui, tu es le président de l'IRSEC, la Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs.
Ça, généralement, ça met un petit coup quand on me rappelle que je suis président de la Caisse de retraite, tu vois. Mais bon.
Non, mais c'est des choses importantes. Et t'es passé par d'autres organismes aussi, mais en gros, où l'idée, c'est de dire, rappeler cette réalité d'un métier, de défendre les droits parfois, notamment des compositeurs, des artistes auteurs, etc. Et cette expertise aussi que tu as, en fait, on la retrouve aussi dans le bouquin, en plus de ta carrière, en fait, de compositeur, quoi.
Non, mais moi, c'est mon mantra. À côté, t'as la TR-808, hein. Et de l'autre côté, t'as les gens doivent vivre de leur métier. Ouais. Et pour qu'ils puissent vivre de leur métier, c'est vrai que parler de retraite à un gars qui démarre, c'est pas super sexy, mais si tilt que ça va être ses revenus d'après et que c'est parce qu'il sera indépendant financièrement, qu'il aura bien géré, qu'il gagnera sa vie, qu'il se fera payer, qu'il fera pas ça uniquement pour le plaisir de le faire, qu'il pourra continuer à faire et en faire encore plus et sécuriser son parcours professionnel. C'est super important. C'est un métier ce qu'on fait. C'est un vrai métier. J'aime bien raconter ça. J'ai des enfants. Donc les enfants quand ils sont petits, ils vont à l'école. Et quand ils vont à l'école, il y a d'autres enfants qui sont à l'école, qui ont des parents. Donc les parents se reçoivent. Alors bon, alors toi tu fais quoi? Moi, je suis courtier, moi, je travaille dans une banque, moi, je suis commerçant. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis compositeur. La question qui arrive tout de suite derrière, immédiatement, c'est « Ah bon? Et t'en vis ?» Alors, j'explique. Et donc, en 15 secondes, je passe de clochard à gros salopard du show business qui prend plein de thunes. On ne demanderait pas à n'importe qui qui donne son métier.
Est-ce que tu vis de ton métier? Du courtage.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'est connais ça.
Non, j'avais demandé à Das s'il pense à sa retraite.
Moi, je pense qu'on n'en aura pas, mais du coup, oui, en fait, je me dis, mais c'est une vision un peu optimiste de la vie, que le métier que moi je fais aujourd'hui, je pourrais le faire même à 90 ans, tu vois.
Ah ouais. Aussi, est-ce que tu auras envie?
Ouais, en vrai, pour moi, la retraite, en fait, c'est surtout pour préserver. Non, avec Samuel Etienne, let's go. Pour moi, la retraite, c'est important, et c'est d'abord principalement pour les gens qui occupaient des métiers physiquement difficiles ou des trucs que tu peux plus faire passer un certain âge, tu vois. Nous, franchement, on est flex.
Je suis désolé. Il va y avoir droit à ces deux minutes institutionnelles.
Vas-y.
Alors, la retraite,
je suis pas d'accord avec lui globalement.
Ah attends, ça me fait plaisir. On va s'y mettre à deux. En plus, il est costaud. On sera pas trop de deux. On débunk. La retraite, bien sûr, qu'on aura une. Tout le monde en aura une. La question est pas de savoir si on en aura ou on n'aura pas, mais plutôt quel sera le montant.
Oui.
Ça c'est le sujet. Donc ça c'est une chose. Donc effectivement pour toucher de la retraite, il faut cotiser. Pour pouvoir cotiser, faut travailler. Donc ça pose des problèmes. Des gens qui ont des petits salaires ont des petites retraites. Mais en tout cas, tout le monde aura une retraite. On est dans un système en France basé sur la solidarité intergénérationnelle, interprofessionnelle.
On cotise tous les ans.
En tout cas, il y a ça. Et effectivement, après, tu soulèves un sujet qui est fondamental, alors que techniquement est appelé dans le périmètre de la retraite, le cumul emploi-retraite. C'est vrai que dans toutes les professions artistiques, on a cette chance de pouvoir continuer à travailler tout en faisant valoir ses droits à la retraite. Ouais. Les salauds de cumulards d'artistes, tu sais. Et donc ça, c'est un avantage qui s'est pas fait tout seul. C'est quelque chose qui est le fruit de combats, de luttes, d'artistes auteurs investis là-dedans. Et parce qu'on le fait, et parce qu'on continue à travailler, et parce qu'on continue à cotiser au titre de cotisation de solidarité, on permet aux autres de tenir le système. Et le système, il est plutôt très bon. évidemment, bien sûr, les carrières, les carrières courtes, les gens qui ont commencé vraiment très tôt avec les, avec la pénibilité, tout ça, c'est vraiment des sujets fondamentaux. Depuis que je m'intéresse à ça, c'est vrai que là, j'entends, hein, en ce moment, justement, le sujet retraite revient, et je le vois avec un prisme un peu différent, et on s'aperçoit quand même le nombre de conneries qui peuvent être dites à la minute, c'est assez impressionnant. En tout cas, bosse, cotise, prépare ta retraite, tu pourras continuer à bosser, c'est super, tu le fais au titre de la solidarité.
Oui, de toute façon.
Et t'auras une retraite. Et si tu ne l'as pas ta retraite, tu viens me voir et on ira voir les mecs et on ira la chercher. Non,
c'est l'avantage aussi d'avoir commencé ma carrière par un emploi salarié, tu vois, 17 ans d'informatique
et
à la Défense.
Et bah,
j'ai cotisé. C'est pour ça que je prends des vacances là, mais ouais. C'est important, la retraite.
Je peux dire que j'ai pas cotisé grand chose.
Eh bah oui, c'est ça, voilà, ça va être un manque depuis le départ.
J'ai besoin de sous, allez-y. Des propositions, je suis ouvert à toutes les propositions si elles sont bien rémunérées. Bon, allons-y, les gars. Parce que... Mais c'était très intéressant parce que ce côté métier, bah ouais, quand t'es musicien, faut penser à la retraite aussi. Bref, c'est passionnant. Commençons avec une première partie, si tu le veux bien, Olivier, Daz aussi. Sur vraiment ce côté, la transformation du métier et autour de ces notions dont tu parles là de chaman et de slasher, elles sont intéressantes, on va les développer. Mais avant même de parler de ça, juste, c'est quoi une œuvre en fait? Et c'est quoi un compositeur? Enfin, tu vois, c'est lié d'ailleurs, tu commences le bouquin avec ça pour rappeler un peu les bases.
Absolument, c'est indissociable en fait. Sauf que ça pose un problème. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une œuvre, il faut un compositeur, et pour qu'il y ait un compositeur, il faut qu'il fasse une œuvre. Alors qui arrive en premier? L'œuvre, le compositeur, vous connaissez l'histoire. Pourtant, le concept fondamental, c'est cette notion d'œuvre, en tout cas dans la chance qu'on a d'avoir de l'acceptation du droit d'auteur continental, celui qu'on a en France, héritage de la Révolution française. Je vous rappelle avant, vous avez tout à connu cette époque-là où c'était le roi qui commandait la musique et qui donnait. Ouais. Donc on est passé quand même à autre chose, disons. Ce travail intellectuel, cette production intellectuelle, cette œuvre doit donner lieu à rémunération au moment où elle est constituée. Et puis après arrive un autre moment où on dit à chaque fois que l'œuvre fait l'objet d'une exploitation, il faut qu'elle génère des droits proportionnels. Je vous glisse la petite anecdote de la SACEM. En fait, il y a vers 1850, il y a deux auteurs, un compositeur qui décident d'aller boire un coup. Vous savez, déjà à l'époque, dans la musique, c'était comme ça que ça se passait. Ils vont dans un café qui était le Café des Ambassadeurs en bas des Champs-Élysées. 1850, communication de la musique au public, que du live. Il y a un orchestre qui joue. Il y en a un qui dit « Ah bah c'est mon morceau ». Ils appellent le patron, ils disent « Ah patron, le morceau ». Et le patron dit « Ah bah on joue 5 fois par jour parce que les gens restent épicoles ». Patron, c'est à tourner. Mais ça va pas, non? Bagarre, procès.
Ah ouais.
Intervention de la police, un éditeur de musique décide de payer les frais de justice, et de là, il décide de monter un syndicat, partant du principe que dès que quelqu'un fait
de l'argent avec,
touche un revenu additionnel par l'exploitation du l'œuvre, il doit verser une rémunération proportionnelle aux auteurs et compositeurs, on va dire auteurs en termes génériques. Et ça, de ce petit syndicat devient en 1851 la SACEM.
Ce qui explique le principe selon lequel, quand on va dans un commerce, quand on va dans un bar, quand on va dans une salle de spectacle, etc., si des morceaux sont joués et qu'ils t'appartiennent, tu vas toucher un peu d'argent.
Absolument. Et c'est super compliqué en termes d'acceptabilité. Moi, je comprends que...
Les gens, ils disent oui, ils y vivent... Enfin,
à qui va l'argent?
Ouais. Et puis surtout, l'argent, par exemple, t'as un kebab, bon, ben, il y a un morceau qui passe, mais c'est pas, vous êtes pas venu en concert écouter cette musique, vous êtes venu acheter un sandwich, tu vois. Donc
certes, mais si tu la mets, c'est qu'elle participe d'une certaine manière à l'ambiance de ton commerce, etc. Et surtout, les personnes.
Mais du coup, comment
qui
tu
ont bossé,
sur le prix du kebab, à quelle proportion tu mets l'ambiance du kebab dans le prix de vente final, tu vois?
Alors, ça se calcule pas comme ça, heureusement, parce que sinon, tu te rends compte, c'est l'enfer, là. Tu dis, bon, alors oui, mais alors la salade, qu'est-ce qui est plus important? T'aimes la musique ou la salade dans le kebab? Ah, c'est la sauce. Non, mais c'est, en fait, il y a un système, un barème, établi par la SACEM, qui consiste à dire, d'abord, on va voir quel est l'usage qui est fait de la musique. Le kebab, si le gars, il a une enceinte avec de la musique, il va pas payer grand chose. Si quand tu rentres dans le kebab,
Il y a un haut-parleur de 38 et
vas-y, le kebab! Là, on va dire que peut-être que c'est la musique qui a attiré un bar musical. Donc, en fait, le barème va être fonction de ça, du nombre de haut-parleurs, de l'utilisation qui est faite de la musique, et puis évidemment, du chiffre d'affaires. Et ça sera proportionnel. Et on est sur, parfois, des sommes microscopiques, et parfois des sommes très importantes, puisque cette collecte, elle va aussi concerner un concert à Bercy. parce qu'il y a bien les œuvres. Alors, tu dis oui, mais c'est mes œuvres. Ben oui, mais on va te rémunérer pour ça. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'autre particularité du droit d'auteur, en tout cas tel qu'on l'a nous en France et qui est génial, c'est qu'une œuvre de toi, de moi, de Jean-Jacques Goldman ou de Gims a la même valeur à la seconde.
Ouais.
Il n'y a pas cette notion de à la tête du client. Donc on est utilisé et on est réparti. Alors. C'est un sujet super touchy de dire ça, mais pourquoi je paye? Il y a ceux qui veulent payer en pièces de 10 centimes. Il y a eu un conflit avec les discothèques. En tout cas, ce système-là, il existe. Beaucoup nous l'envient et, on a la chance. Pour ceux qui sont exploités, dont les œuvres sont exploitées, hein, c'est comme la retraite, si tu cotises pas, t'auras rien, de pouvoir en vivre. Et ça, c'est pas partout pareil dans le monde.
C'est intéressant parce que je t'ai demandé c'est quoi une œuvre, c'est quoi un compositeur, et très vite, on en est arrivé à cette notion un peu dans l'encadrement légal, entre guillemets. Non, mais parce qu'aussi, ça dit quelque chose.
Tu as raison.
Parce que avant, alors tu as parlé de la création de la SACEM, etc. On n'avait pas ce même rapport à ce rap, même rapport,
ah, aussi, même rapport vois, justement. Par,
ce même rapport à la propriété intellectuelle, à la nature de ce que l'on crée avec un instrument.
Non, bien sûr. En fait, la notion d'œuvre, donc elle est rattachée donc dans le code de la propriété intellectuelle au compositeur, parce que faut que ce soit l'œuvre d'une personne physique. Alors évidemment, vous imaginez qu'en ce moment le sujet autour de L'intelligence artificielle peut-elle faire une œuvre? Selon le code de la propriété intellectuelle, non. Donc il faut que quelqu'un dépose un physique. Mais alors, est-ce que si ça sort pas de mon esprit, mais d'un prompt de chat, je sais pas quoi, est-ce que ça, ça va être le sujet dans les 5 prochaines années? On s'éloigne de ça. Mais en tout cas, cette notion d'œuvre, oui, c'est la création de l'esprit. Et il faut qu'il y ait une intention artistique autour de l'œuvre. Et justement, ce qui est formidable dans cette idée, c'est que il n'y a pas de hiérarchie dans l'œuvre. Il n'y a pas de côté qualitatif. Tout est considéré comme œuvre à partir du moment où c'est le fruit d'une personne qu'en fait une œuvre de son esprit avec son intention artistique, que ce soit une symphonie, 3 notes, une petite mélodie.
Du coup, ça doit se complexifier à mort au fur et à mesure qu'on rentre dans le numérique, où maintenant t'as des gens qui te font des albums complets avec un clavier et une souris, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'ersatz d'instrument au sens... classique du terme, c'est-à-dire t'as même pas un clavier maître ou quoi, tu
non,
peux
mais
tout
ça,
faire
je
avec
pense...
des loops et
ouais mais ça change pas. Après ça peut changer autour des droits voisins s'il y a des interprètes par exemple que tu fais venir sur ton morceau, etc. Mais
non, mais si par exemple tu prends un soft comme je sais pas GarageBand, ouais. Qui a des loops et plein d'échantillons à dispo.
Si elles sont libres de droit, en tout cas dans le contexte,
ouais, le fait
dans le contexte de l'utilisation de la licence, en tout cas, si tu as la licence pour l'utiliser, et que cette licence, elle inclut le fait de pouvoir créer sa propre œuvre à partir de ses bouts musicaux, aucun problème, c'est ton œuvre. À ma connaissance.
C'est un outil. Ton outil, c'est GarageBand, ça aurait pu être une clarinette, un piano, peu importe. En fait, c'est même pas lié à la pratique de l'instrument. Mais c'est toi, c'est ton esprit. C'est qui va choisir cet ensemble. On parle pas de la facture globale du morceau. On parle de l'œuvre. L'œuvre en tant que telle,
la création,
c'est une œuvre.
Ouais.
C'est vrai que c'était plus simple à une époque où on pouvait écrire l'œuvre. Et c'est le travail historique des éditeurs de musique, donner une représentation graphique de l'œuvre. Petit à petit, dès que l'œuvre a pu être fixée sur un support, cylindre de cire, le disque micro-sillon, le compact disque, le stream, on a changé ce paradigme, mais il reste quand même l'œuvre. Il faut être attaché à l'œuvre. Et pour le coup, le droit d'auteur concerne l'œuvre. Et comme tu l'as dit, le reste, la production de l'œuvre, sa fixation sur un support, les droits voisins du droit d'auteur afférents pour les interprètes ou pour les producteurs sont autre chose. Vraiment, cette notion d'œuvre, c'est une création d'esprit.
Et évidemment, il faut ajouter que si par contre, tu vas sampler quelque chose dont tu n'as pas la licence, c'est-à-dire que c'est pas inclus dans Logic, ou si tu as payé un service type Splice, etc., tu vois, ce genre de choses, là par contre, il va falloir l'accord, il va falloir payer les gens qui sont à l'origine de ce sample, bien entendu.
Tu as mis une œuvre dans l'œuvre. Ouais. Donc en fait, il va falloir, dans cette nouvelle œuvre, dire, il y a une partie qui correspond à
mon
droit, la partie à l'autre, et on fait, et là on commence à faire des choses. Et au début, effectivement, le début du sampling, ça a été
la jungle,
c'était un enfer, parce qu'il y avait effectivement les droits liés à l'œuvre en elle-même, mais effectivement les droits liés aussi à l'enregistrement.
Alors là vous mettez le doigt d'ailleurs tous les deux sur un truc essentiel. C'est que le sampling, qui d'une certaine manière est une évolution technique, a créé, tu le disais, de nouvelles situations, et il a fallu s'adapter. Et donc ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tout ton bouquin, c'est que dans l'histoire même limite de la musique de manière générale, il y a eu une nouvelle situation auquel il fallait s'adapter parce que les outils évoluaient aussi, ouais, etc.
Les pratiques, les outils...
Évidemment. Et on en arrive enfin à cette notion de slasher, parce que toi, ce que tu considères, c'est que, si j'ai bien compris, le compositeur aujourd'hui a pris une nouvelle forme, d'une certaine manière, en tout cas on peut lui accoler certains adjectifs parce que cette pratique a évolué. Et tu parles justement de ce fameux slasher. Le compositeur d'aujourd'hui est un slasher. Tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, oui, oui. Bah, le slasher, en fait, c'est un terme qui est apparu au début des années 2000, qui n'était pas justement dédié à la musique, qui était de dire one person, multiple job. Et effectivement, ça a pris une importance phénoménale par chez nous, puisque avec l'arrivée des home studios, les bedroom producers maintenant, où une même personne était à la fois le compositeur, parfois l'interprète, mais l'interprète de toutes les parties, et puis l'ingénieur du son, l'ingénieur du mastering,
et le producteur,
et le producteur, et le distributeur, et le responsable de
On rappelle rapidement d'ailleurs les quelques bases. Le compositeur, c'est celui qui va écrire la musique, l'interprète, c'est celui qui va la jouer, entre guillemets. On a cité quoi ? Le producteur, c'est celui qui a mis à disposition les moyens d'enregistrement, et donc à qui appartient l'enregistrement, si je dis pas de bêtises.
Le producteur, ouais, c'est celui qui a pris l'initiative de l'enregistrement. C'est une petite subtilité qui a vraiment une grande importance. D'ailleurs, c'est très utilisé par nos amis du cinéma, puisque la plupart des producteurs de cinéma mettent pas une thune dans le film. C'est pas leur argent. Donc, ce producteur, il dit, moi, je prends l'initiative de l'enregistrement. Alors, dans l'initiative, il peut y avoir aussi, je mets des moyens techniques à disposition. Mais à partir du moment, au regard de la loi, la personne qui prend l'initiative et producteur. Alors après, quel type de droit il pourra revendiquer ? Et on est toujours sur des, en fait, des subtilités, mais les codes sont vraiment très 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 stricts et très bordés. Mais cette activité de slasher fait que on traverse un peu tous les moyens, tous les codes et toutes ces fonctions.
D'ailleurs, slasher, je précise, tu le dis dans le bouquin, c'est parce que derrière la notion slash, c'est-à-dire je suis ça, slash ça, slash ça, j'ai plein de métiers.
T'as raison, expliquons-le. Oui. À l'écrit, ça se voit, mais à l'oral, c'est plus difficile.
Pour nous, oui, slash, c'est un guitariste de Guns N' Roses.
C'est encore autre chose, effectivement. Slash est-il un slasher aujourd'hui, certainement?
Je pense, ouais. S'il est encore musicien.
Il a sorti un album il y a un mois, je crois.
Ce qu'on comprend, de toute façon, c'est que tous les compositeurs sont voués à devenir des slasheurs parce que le monde a évolué comme ça, de toute façon. Tu peux pas rester strictement compositeur et ne faire vraiment que ça. Ouais. T'es obligé de...
Et alors, ce que dit Daz, c'est une réalité déjà, et est-ce que c'est lié vraiment au changement technique, technologique?
Oui, mais même au-delà de ça, le premier slasher que j'ai identifié, je vous avais dit qu'il fallait le citer au moins une fois, donc pas le citer deux fois, c'est Bach. Bach,
slasher.
C'est un putain de slasher. Bach ne vivait pas de sa musique, de ses droits d'auteur sur la musique. Bach a été remis au goût du jour au 19e siècle. On a redécouvert Bach. Bach, il était maître de chapelle, il était responsable de l'orgue, il donnait des cours de musique, il écrivait de la musique, et certainement, s'il fallait aller couper du bois, il allait le faire et faire la cuisine. C'était une réalité. Dans le monde technologique, ça a été puissance 10 000. Alors, je ne suis pas en train de dire « il faut tout faire hein. ». Pas du tout, j'aurais même plutôt tendance à dire le contraire, en disant ça devient, on le subit parfois, parce que la situation fait qu'on est obligé un peu de tout faire ça même, mais on peut aussi le faire par volonté. Et il y a vraiment eu, avec l'arrivée des premiers synthés, des ordinateurs, des séquenceurs, de toutes ces machines, cette idée de pouvoir faire les choses soi-même tout seul et d'avoir l'approche artistique. Il y a dans les trucs mythiques, il y a cet album de Stevie Wonder où on le voit jouer tous les instruments. Très probablement qu'il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Et que s'il avait voulu des musicos, ça aurait pas été un problème. Mais tout d'un coup, il dit, je veux aller dans cette démarche artistique. A contrario, il y a des gens pour qui c'est une immense souffrance de faire des maquettes et des choses et qui ne demandent que à avoir plein de musicos autour d'eux pour faire des tournées. On a ça dans tous les compositeurs de musique à l'image où pour des raisons de budget, de temps, de rapidité, c'est la foire aux ordi et aux centaines de milliers de banques de sons, mais dès qu'il y a la possibilité de prendre un copiste et de sortir le score et de le faire jouer par un orchestre, tout le monde est content ou pas. C'est une envie autour de ça.
Alors, c'est intéressant, parce que moi, je n'avais pas pensé ça de cette manière. Moi, quand je pense au slasher, tout de suite, je me dis, c'est notamment à l'ère des réseaux sociaux, par exemple, avoir plein de compétences, que c'est des compétences très précises de maîtriser les réseaux sociaux, et capable de produire de la vidéo, par exemple, des choses comme ça, etc. Alors, toi, tu as intégré en plus l'idée des outils tels que les synthétiseurs, etc., qui déjà imposent de maîtriser d'autres domaines, entre guillemets. Est-ce qu'il y a vraiment une forme de switch au XXe siècle où tout d'un coup, les compositeurs se sont dit, ah là, je peux plus m'arrêter seulement à la composition, ou j'ai compris qu'il y avait eu Bach, c'est ancien, etc. Mais en tout cas, que le spectre s'ouvre vraiment à des domaines de compétences qui normalement sont pas liés à la musique, quoi.
Le switch, il va se faire avec le développement exponentiel des moyens de diffusion et d'accéder à la musique. À partir du moment où on commence à avoir la possibilité d'avoir cette musique fixée sur un support, et de pouvoir reproduire ce support, hein, parce que vraiment, faut se remettre dans le contexte. On veut faire un des premiers phonographes qui était à la fois des lecteurs et des enregistreurs. Si on veut faire 10 disques, il faut enregistrer le morceau 10 fois. Donc, ça complique les choses. Et puis, c'est cher. Et puis, tout le monde ne peut pas se payer de ça. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, moi, j'ai inventé un système qui permet de dupliquer en plus grand nombre. Donc, vous voyez, ce mode de diffusion fait une chose. Et on a une première crise terrible, qui est la fin du monde. Dans les années 30, où tout d'un coup, les musiciens s'aperçoivent que on n'a pas besoin d'eux pour écouter de la musique. Et là, c'est terrible. Et voire même pire que ça, ils n'ont même pas besoin d'être là, puisqu'il y a un truc qui est inventé qui s'appelle la radio. Et là, les mecs, c'est la fin du monde. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien. Après, on a une deuxième crise qui arrive dans les années 90 avec le piratage. Et là, c'est la fin du monde. La musique est terminée.
Voleriez-vous une voiture ?
Voilà, il n'y a pas. Donc, ce switch, on va dire, il se passe à, je pense, après-guerre, profite de la Deuxième Guerre mondiale, je précise, hein, pas la première, avec le développement de l'enregistrement sur bande magnétique, puis le développement de l'enregistrement multipiste, et que la musique devienne un produit de consommation de masse.
En fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, ce qu'il faut retenir en même temps que ces évolutions de la méthode de production, c'est qu'il y a aussi une évolution de la consommation, et que oui. Là où avant, des groupes live étaient écoutés, certes, systématiquement, les mecs jouaient, mais pour un public assez restreint, je pense que, ouais, effectivement, ça a dû ouvrir aussi leur portée, et leur audience, le fait de simplement avoir de la musique enregistrée.
C'est exactement ça. Une des plus grandes références, il faut toujours citer aussi les Beatles, clairement, les gars, quand ils démarrent, ils doivent aller enregistrer, mais ils n'ont pas le droit de toucher au bouton. On est dans un système très cloisonné. Le musicien est d'un côté, le technicien est d'un autre.
Il y a dans le studio.
C'est le studio. C'est serré. Le studio appartient à la maison de disques. Il y a des horaires. On va pas. Et puis, petit à petit, la tentation. T'as vu quand je tourne celui-là, si tu le tournes plutôt comme ça, touche pas. Et là, les choses s'inventent. Et les instruments s'inventent. Et la guitare se met à saturer. Et même avant, Adolphe Sax invente un instrument. Il en fait rien si Berlioz écrit pas pour le saxophone et dit on le fait rentrer dans l'orchestre. Donc le gars qui invente un petit synthé ou une première boîte à rythme, si quelqu'un ne l'utilise pas, ça fait rien. Et au début, c'est grand public.
C'est intéressant l'exemple des Beatles que tu as pris. Parce que dans le bouquin, tu dis à un moment d'ailleurs que d'une certaine manière, les évolutions technologiques et les nouvelles façons de faire de la musique et d'approcher le studio ont presque participé à la séparation du groupe. Tu racontes cette histoire. Tu veux bien nous la raconter ?
Ben oui, avec plaisir. Alors, les Beatles, leur premier album, non. En fait, l'histoire, c'est que ils expérimentent beaucoup, pas seulement dans la musique, ouais. Ils expérimentent beaucoup, tout le monde a compris. Et autour de ça, évidemment, il y a des courants qui se dessinent. Harrison, lui, découvre les premiers synthés, le Mini Moog, l'ARP 2600, et dit faut incorporer ça parce que c'est notre logique, c'est notre ADN. Quand on avait un 3-pistes, on s'est dit tiens, si on mettait 2-3 pistes, et puis il y a
innover.
Et puis il y a George Martin qui est arrivé, qui a fait des orchestrations, et on a recopié, on a mis les reros, on a mis toute la batterie sur une piste, innover en permanence. Et puis ils arrivent au moment de leur carrière où en fait ils ne peuvent plus faire de concerts parce qu'il y a beaucoup de public et la sono est pas assez puissante. Alors les spécialistes des Beatles restitueront, moi je suis pas grand spécialiste des Beatles, mais ils font des concerts donc dans des stades, il n'y a pas de sono assez puissante, faut utiliser la sonorisation du stade. les gens hurlent, on n'entend rien. Mmh. Les mecs ils disent, mais qu'est-ce qu'on va... On peut pas. Donc, il décide d'arrêter de faire des concerts. Il arrivait à peu près la même histoire, justement, du côté des Beach Boys. Hein. Mmh. Donc, il dit, on va se travailler en studio et on va explorer cette créativité. Sauf que là aussi, bah, des concepts s'affrontent et Lennon à un moment donné, alors c'est super décrit dans le film de Peter Jackson, hein, dit moi je voudrais revenir au truc du début quoi, on se met autour du micro, on cherche des choses, alors que bah Harrison dit non mais utilisons la technique. Et puis en fait le studio se modernise, donc ils ont leur propre studio rapidement, et en fait c'est plus le son de l'époque, les trucs sont devenus trop bons, le côté pourrave cracra qu'il y avait. Il retrouve pas cette chose-là.
Donc il se perd en route en fait.
Voilà, tu rajoutes après quelques histoires de gonzesses et de pognon, fait que le groupe s'arrête. Mais tout est lié à cette histoire de la communication au public. Et tout à l'heure, je vous ai promis de citer le général de Gaulle parce qu'en plus on est dans les dates. Si on prend l'appel du 18 juin, je pense que les historiens s'accordent pour dire que très peu de gens l'ont entendu. Mmh. On l'a entendu parce qu'après il est allé l'enregistrer et il a été fixé sur un support. Et que c'est ça qui fait référence. Ça serait pas fixé sur un support, ça serait parti.
C'est une légende en fait. Ouais.
Bah oui, c'était l'idée de Marconi, l'Italien qui a inventé la radio. Lui, il s'est dit en fait, il y a un son, donc je parle, ma voix passe, vous l'entendez, et elle est quelque part. Je veux fabriquer une machine qui va aller récupérer ma voix qui tourne autour de la Terre dans un univers parallèle. En fait, il invente dans son poste de radio, il essaye de récupérer ce son-là, et en fait, à la place, il fait le contraire. Il invente une manière de transmettre le son. Tout ça part de ces idées-là et de ce genre de folie.
C'est l'exemple des Beatles, il est aussi très équivoque à propos des évolutions technologiques, et en fait, et aussi de la notion de slasher et de ce que l'on est aujourd'hui en tant que musicien, compositeur. C'est que tu disais initialement des rôles très définis dans le studio, et en fait, on se rend compte, un truc qu'on dit aujourd'hui, c'est que intrinsèquement, l'ingénieur du son, le compositeur, en fait, c'est aussi artistique, la technique, l'ingé son, le rôle plus précis de certes, il y a une maîtrise technique nécessaire, mais c'est un des choix artistiques aussi, quotidien. Et ça, on le retrouve dans le slasher d'aujourd'hui, qui doit se dire, je suis compositeur, soit je délaie complètement, c'est encore possible, bien entendu, mais si je veux me pencher sur comment avoir un produit fini pas mal, et voir si je veux garder la mainmise artistique sur mon produit final, bah, il faut que je me penche sur les techniques, ingé son, etc.
C'est des discussions à n'en plus finir au sein de toute la chaîne de production, de dire mais qu'est-ce qui fait le morceau ? C'est au moment où l'ingé son a ouvert la réverb et que tout le monde a dit « Waouh ! C'est un gang !» Ou oui, mais enfin bon, s'il n'avait pas ouvert la réverb sur la note que j'ai composée, il n'y aurait rien. Bon, d'accord. Et là, ça, évidemment, là-dessus viennent se greffer tout le volet industrie dont on a parlé, et finance et argent. Qui fait quoi ? À quoi appartient qui ? Comment ? Pourquoi ? Oui, mais c'est moi. C'est pas moi. Est-ce que j'ai des parts ? Oui, mais on dépose. Le droit d'auteur, qui a les droits ? Et là... on rentre dans des trucs super compliqués. Et c'est d'ailleurs un écueil terrible. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à faire, et puis on fera le contrat après. Grave erreur. Alors, je le dis, hein, mais bon, les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. Il faudrait commencer par faire le contrat, parce que ça fixe les choses.
Il y a...
Oui, mais comment tu sais, ouais. puisqu'il y a aussi de l'expérimentation, que tu te retrouves à faire des trucs qui n'étaient pas forcément prévus au titre du contrat.
Je sais, c'est super compliqué, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des fonctions, il y a des rôles qui sont définis. Et qu'on va considérer que une fois qu'on a cadré ça, ça sera le minimum sur lequel tout le monde est d'accord. Après, libre aux uns et aux autres de faire un pas en avant.
Juste pour que je comprenne bien votre discussion, là, vous voulez dire qu'en fait, quand vous collaborez à plusieurs, par exemple, si on va dire, OK, il y aura une part à peu près pour toi parce que t'as fait tel truc.
Non, moi, je disais, le type qui rentre en studio, par exemple, ouais. Un des mecs des Beatles qui rentre en studio et qui décide de passer de l'autre côté de la console et quelque part de remplacer l'ingé son sur un truc parce qu'il a bidouillé des potards, qui se rend compte que le son est cool. Bah, il avait peut-être pas prévu de le faire, c'est complètement spontané dans l'énergie créatrice, tu vois, et lui il était parti pour jouer de la guitare, il se retrouve à bricoler la console. Comment est-ce que tu peux prévoir que tu vas faire d'autres métiers que celui pour lequel t'es rentré? C'est compliqué. Est-ce qu'en fait le problème c'est pas que finalement les termes qui permettent de définir les rôles dans la composition musicale sont peut-être un peu trop restrictifs? Est-ce qu'il y aurait pas un slasher, OK, un terme générique, tu vois, plutôt que de dire, parce que slasher, ça sous-entend tous les anciens rôles qu'on a codifiés, tu peux potentiellement les occuper. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau rôle?
Alors, c'est...
On va coller, on va mettre côte à côte des...
Oui. Alors, les Beatles, il y a un truc très, très amusant à faire, c'est de regarder leur discographie et de regarder les morceaux qui sont signés Lennon-McCartney, puis d'autres morceaux qui sont signés The Beatles, et puis des morceaux où il n'y a pas de George Martin. D'accord. Alors, quel est l'apport de George Martin dans les Beatles? Et là, bah oui, donc il y a cette notion autour du droit d'auteur. Alors, comme tu dis, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait quand même que, au départ, il y a l'œuvre.
Oui, j'ai pas réagi. George Martin, qui était leur ingénieur du son.
Pardon, qui était leur ingénieur du son et qui était considéré comme le cinquième Beatles. Hein, parce que, voilà, son apport artistique a été considérable. Là, on va laisser les spécialistes, parce que si on part sur les Beatles, on est cuit, on va se faire défoncer. Hein. Le compositeur, l'œuvre. Il y a une autre personne qui est l'arrangeur, qui est la personne qui va faire en sorte de combiner l'ensemble des musiciens, quand il y avait des musiciens. L'arrangeur, il disparaît un peu. Alors, tu vas me dire, on va parler en langage de 2024. Le beatmaker, il est quoi? Est-ce qu'il est compositeur ou est-ce qu'il est arrangeur?
Mais surtout qu'en plus, on dit il est... Enfin, tu vois, on utilise le terme producteur qui a un...
Alors,
tu vois, c'est dérivé du producer.
Voilà, c'est ça. Ça, on a des problèmes dans des problèmes de vocabulaire parce qu'on mélange du français et de l'anglais. On va dire, oui, mais alors le top liner, mais dans les années 60, on appelait ça le mélodiste. Et donc, le mélodiste n'était pas forcément le même que l'arrangeur. Ça pose beaucoup de sujets. Donc, on va adresser un sujet autour de l'œuvre. De dire quelles sont les parts disponibles dans l'œuvre. Là, on peut co-signer une œuvre ou décider, non, moi je suis le compositeur, il n'y a pas d'autre compositeur. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, il peut y avoir des fâcheries, en tout cas c'est codé sur l'œuvre. Après, il va y avoir tout ce qui va constituer à enregistrer l'œuvre, donc il y aura des interprètes. Les musiciens, ils sont salariés, ils sont payés pour ça. Et logiquement, tu demandes à quelqu'un de venir jouer une partie de guitare, tu lui donnes une partition, il joue la partie. Oui, mais bon, les partitions, il n'y a pas toujours. Si lui, il invente, est-ce qu'il peut être considéré comme co-compositeur? Ah bah oui, mais alors ça va être compliqué parce que les parts, ça, c'est une partie de guitare parmi l'œuvre. On est sur plein de sujets.
Mais surtout que ça veut dire que le musicien qui vient, il a lui tout intérêt du coup à essayer de rajouter une note qui n'était pas prévue pour pouvoir prétendre à...
Après, est-ce que ça se fait pas un peu tout ça de manière... Alors, je sais que c'est assez limite, et ça peut faire avoir, mais j'allais dire de manière organique. En fait, si on s'arrange entre nous, souvent, quand
même. Mais ce qui est bien, c'est de s'arranger un peu avant, et pas de s'arranger une fois que... c'est fini, et puis surtout une fois que ça marche. Quand il n'y a pas d'oseille à prendre, personne ne veut partager. Mais bon, par contre, parce qu'il y a aussi une prise de risque. Il y a, effectivement, le chanteur va dire, attends, hey, c'est moi qui suis devant et qui vais prendre les tomates et les cagettes dans la tronche pour chanter ton morceau. Donc, je veux une part de co-compositeur. Tu dis,
l'interprète peut demander une part de co-compositeur.
Ah, mais il y a eu toujours ça, des accords, des co-signatures, parfois un peu coercitives, il faut le dire. Et puis l'éditeur de musique, il dit, attendez, vous êtes gentil, moi j'investis de l'argent, donc j'ai une part autour de ça. Alors l'ingénieur du son dit, mais moi, mon apport, c'est parce que j'ai mis la réverb que, vous voyez, on arrive dans une complexité. Donc, il faut séparer l'œuvre, la fabrication de l'œuvre, la production et l'exploitation. Et là, on a plein de possibilités. On a la possibilité d'être rémunéré sur les droits d'auteur de l'œuvre. On a la possibilité d'être rémunéré sur les droits générés par la vente des œuvres. Où là, c'est beaucoup plus facile parce que c'est un droit commercial. Et là, on peut dire... à tel pourcentage. Ce qui fait que ça crée aussi ce grand malaise autour du stream où on divise en micro-parts des micro-paiements.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle parfois aussi, autre anglicisme, les royalties, enfin autre terme anglais. Ouais. Et donc en fait, c'est une rémunération à bien... c'est pas la même chose que celle où lorsque ta musique est exploitée, diffusée, etc., tu prends quelques trucs.
Absolument.
Et puis ensuite, il y a vraiment quand t'es streamé, là c'est encore une autre forme de rémunération.
Il faut un genre de mur infranchissable entre... la partie droit d'auteur liée à l'œuvre et la partie droits commerciaux, royautés, redevances, royalties, et la partie droits voisins du droit d'auteur qui sont liés aux réutilisations. Une même œuvre peut avoir 5, 10, 15, 25 enregistrements. Si demain, on décide, là, tout à l'heure, on décide tous les trois de faire un titre Miley Cyrus, il n'y a pas de problème. On ne pourra pas aller croûté sur la part droit d'auteur. Ça sera son œuvre. En revanche, on fait un nouveau master. Je prends l'initiative, je suis producteur.
Et tu touches de l'argent en tant que producteur. Et après, les royalties vont au producteur.
Et on exploite. Sauf qu'il va falloir qu'on respecte aussi certaines règles pour qu'on ne se fasse pas attaquer sur le sujet le plus formidable du droit d'auteur, qui est le droit moral. D'atteinte. C'est-à-dire que la particularité du droit français, du droit d'auteur, tu me commandes une œuvre, je te la cède, tu me la payes, elle est à moi. Particularité du droit américain, tu me commandes une œuvre, je te la cède, tu me la payes, elle est à toi. D'accord. Moi, j'ai toujours la possibilité d'évoquer le droit moral et de dire, finalement, l'usage que tu fais de l'œuvre dont je t'ai cédé les droits patrimoniaux ne me plaît pas et donc je veux récupérer. Genre, tu as utilisé ma musique pour faire une pub pour des tasses.
Ou un parti politique qui l'utilise à l'entrée, par exemple, ce qui s'est vu.
Un parti politique, voilà, dire ça, c'est une chose comme ça. Donc j'évoque mon droit moral, donc je veux demander réparation, on va devant le juge, généralement j'obtiens réparation de mon droit moral, et puis quand même tu me dis donc, au fait, tu te rappelles les 300 000 que j'ai mis là pour l'enregistrement, pour la prod, pas de problème, je te rends ton droit moral. Mais il va falloir quand même que tu participes aux frais. Voilà. On a fait vraiment en super condensé
mais pour avoir une idée
qui demanderait
globale,
des explications précises. Sûr, et là, ça doit s'affoler partout dans les commentaires quand ils disent n'importe quoi.
On avait fait d'ailleurs alors c'est un vieux DLT, mais avec Patrice Lazareff, et on avait pas mal discuté justement des droits d'auteur, des droits voisins, etc. Donc je vous renvoie vers ce vieil épisode de DLT. Mais là, pour reconnecter un peu à notre sujet, à notre slasher, au compositeur, au milieu de tout ça. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est lié tout ça. Et pourquoi? Parce que ce que tu viens d'expliquer, on peut se dire qu'avec cette idée de slasher qui doit maîtriser plein de choses, eh ben le compositeur d'aujourd'hui doit avoir un peu conscience de tout ce que tu as raconté.
Bien sûr.
Et le problème,
c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Et surtout, alors je vais te prendre un passage de ton bouquin, la page 35,
aïe, aïe, aïe.
Où tu dis « Tout auteur espère que ses œuvres seront exploitées et généreront des droits, c'est-à-dire des revenus, une fois toutes les étapes de la création assurées. » Si c'est le cas, il faut alors s'occuper de récupérer l'intégralité des montants liés aux exploitations. Certains pensent que l'argent tombera seul, que la SACEM ira les retrouver au milieu de la meule de foin. Or, rien de tout cela, n'aura lieu si, une fois effectuée la création du morceau et son exécution, notre slasher n'ajoute pas une corde primordiale à son arc, celle du gestionnaire administratif. Ah oui. Et alors, j'avance un peu, et après il dit « Je dois déposer l'œuvre auprès de la documentation générale de la SACEM. Elle me permettra d'obtenir un code d'identification ISWC, et si je suis producteur de l'enregistrement, je dois aussi obtenir un code ISRC auprès de l'OGC qui gère les droits voisins des producteurs de phonogrammes. Il faut également s'assurer que les OGC d'artistes interprètes soient en possession des bonnes informations pour identifier les concerts, les sorties de disques, les passages télé et radio. »
Wow. Donc c'est pas automatique. Hein.
Non, le secret, je vous donne le secret. Je vous fais
ça
la révélation.
Ça fait peur les slasheurs, Jean-Lisa.
Ouais. Il y a la data, les données, c'est le trésor, c'est votre trésor, c'est notre trésor. De maîtriser, de conserver ces données, ces informations sur tout ce qu'on fait. C'est ça qui est pillé actuellement dans les systèmes d'intelligence autogénérative. C'est ça qui est mal documenté et qui crée des... Alors, il y a un vocabulaire qui est souvent employé, qui est des trous dans la raquette, mais à un moment donné, il n'y a même plus de raquette. Hein, c'est pas une question de... Ou plutôt un raquette, mais pas avec la même orthographe. Bah, l'audio, ça marche pas bien. Donc, il faut vraiment avoir ces données. Et là, il n'y a qu'une attitude proactive qui fonctionne. Alors, ça semble insurmontable, mais finalement, c'est assez simple. Il faut documenter. Donner les informations, renseigner un truc aussi bête que tu t'es inscrit quelque part, n'importe quoi, je sais pas, sur un site de rencontre, et t'as changé d'adresse email et t'as pas donné ta nouvelle adresse email. Et ben là, c'est pareil. On s'est inscrit à la SACEM, à la DABI, à la SPEDIDA, à la SPPF. Il faut vraiment renseigner, vérifier que les données sont à jour. Et miracle, quand toutes les données sont à jour, et quand il y a de l'exploitation, eh ben ça tombe. Après, je me suis fait un petit plaisir sur les acronymes. Oui. Il y a un glossaire à la fin.
Oui, et puis là, en plus, il y a un côté... Là, tu mets l'accent sur le fait que c'est complexe. C'est pas le côté guide, entre guillemets, il faut faire ça. C'est de dire, voilà
oui,
ce qui...
absolument.
Le truc, quoi. C'est...
Mais il y a l'expérience qui fait aussi. C'est que en fait, on est... Au moment où on démarre dans les métiers, il y a des informations qu'on n'a pas forcément nécessité à maîtriser. Faut avoir l'idée de ça. Faut se dire, tiens, je fais quelque chose qui est dans un univers éclaté, atomisé, avec des revenus atomisés. Il va falloir que j'aille en chercher partout. Si on est musicien, interprète, qu'on se produit, qu'on est salarié d'un orchestre national, il n'y a pas de problème. Ouais. On est payé pour ça, on a un salaire, c'est son boulot. Si on commence à dire « je veux être compositeur », éventuellement pour d'autres personnes, et ben là, c'est important de faire en sorte que les personnes pour qui on a composé des œuvres pensent à les déclarer.
Parce alors, que si comment est... tu, c'est quoi tes recours quand, parce que c'est déjà compliqué de s'assurer qu'on fait bien l'administratif. Il faut qu'en plus, tu fasses confiance aux différents collaborateurs à toutes les différentes étapes de la création en te disant, est-ce que eux aussi vont le faire et qu'est-ce qui prouve que, enfin, c'est...
Genre non. Que la SACEM sera sérieux, c'est ça que tu veux dire ou
non, que les mecs avec qui t'as taffé, eux, ils vont être sérieux pour faire la décla auprès de la SACEM correctement.
Oui, oui. Alors, c'est... c'est un métier.
Ouais.
C'est le mien. Donc ça, c'est une chose importante. Heureusement, il y a des intermédiateurs, donc des gens qui font ça, dont les organismes de gestion collective du type SACEM, pour les droits d'auteur.
Les fameux OGC.
Ou SACD pour d'autres types de droits d'auteur exploités dans l'audiovisuel et dans le théâtre, par exemple. Des OGC spécialisés dans les droits voisins du droit d'auteur pour les producteurs, pour les interprètes. En fait, il faut dire à ces personnes, voilà, moi, j'ai fait telle œuvre, voilà ma documentation, vous les avez référencées, vous avez une base de données. Il y a possibilité de consulter les catalogues, c'est à jour. Ça, déjà, c'est le B.A.B.A. qui est pas tout le temps respecté.
Attends.
Ouais. C'est pas simple.
Vas-y.
Et après, il faut avoir, comme tu dis, confiance sur le fait que les exploitants déclarent bien qu'ils ont utilisé les œuvres. Tout ce qui est dans le domaine de l'audiovisuel, télé, radio, c'est quand même assez dans les clous. Ils envoient des données de diffusion et... ces données de diffusion sont rapprochées des données de documentation, collecte, répartition, tu récupères les droits.
C'est-à-dire qu'en télé, on utilise, dans Top Chef, on utilise tel morceau, M6 est obligé de le déclarer, de dire on a utilisé tel morceau
absolument,
dans Top Chef.
Absolument. Okay. Alors évidemment, il faut la vérification. Pendant longtemps, ce genre de déclaration a été refilé à un stagiaire à qui on n'avait pas expliqué que c'était le salaire des auteurs et des compositeurs qui était en jeu. Ça va de mieux en mieux parce que la technologie, ça s'informatise, on comprend les choses, et puis surtout maintenant, c'est encapsulé dans les fichiers. Donc, il y a presque moins d'interventions à faire. Pour ce qui concerne le streaming, là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il va falloir que, concernant les droits d'auteur, que la SACEM dise ce que vous avez diffusé, il y a des choses à moi. Spotify. Donc, Spotify dit, voilà, on a diffusé tout ça. Je vous rappelle, pour rigoler, 150 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify.
Ah oui, bon.
Donc, on a diffusé ça. Qu'est-ce qu'il y a à vous? La SACEM dit, voilà notre catalogue et c'est 1300 milliards de lignes de data. Évidemment, la question ne se pose pas de savoir s'ils sont sur Mac ou sur PC. Hein. On est sur d'autres tailles d'ordinateur. Et en fait, les trucs se passent là. Sauf que là, arrive l'autre souci de dire, la SACEM ne peut revendiquer les œuvres que si elles sont à son catalogue. Donc notre petit morceau qu'on a fait, si on l'a pas déposé au répertoire de la SACEM avant qu'il soit exploité, eh ben nos droits d'auteur. Vous savez où on peut se...
Mais alors justement, ma question que j'avais, c'est, je fais le truc de manière totalement freestyle parce que on était dans l'énergie, on fait un morceau à plusieurs machin, le truc pète, mais personne n'avait rien prévu. Est-ce que si je fais la déclaration, parce que j'ai toutes les sources, tous les stems, tous les trucs qui prouvent que j'étais là à l'origine de la création de l'œuvre. Est-ce que ça, c'est rétroactif et je peux récupérer une partie? Est-ce que ça va s'enclencher à partir du moment où j'aurai fait la déclaration? Et tant pis si le truc, il a été utilisé par Taylor Swift en ouverture de tous ses concerts. Est-ce que j'ai des recours?
Alors, globalement, oui.
Ah. Je suis rassuré.
Oui. On peut récupérer les choses. Il y a des délais de prescription. Dans l'audiovisuel, c'est 3 ans. Sur le streaming, c'est un petit peu plus court. Mais il y a possibilité de refaire un back claim en disant, voilà, on peut récupérer les choses. Mais le temps est réduit et le temps court. On est dans des flux de diffusion, énormes, gigantesques, colossaux. Mais on arrive à récupérer les choses. Ce qu'il faut, c'est avoir des preuves d'antériorité. Donc c'est pour ça qu'il faut documenter. Et en plus,
c'est la question de date, ce fameux truc où on s'envoie par la poste. Tu sais, certains se disaient ça à une époque. Je sais pas si c'était valable ou pas.
Oui, parce que le cachet de la poste.
Non, c'est
non, il fait plus foi le cachet.
Si, mais pour les vignettes Panini, c'est pas mal. Non, faut pas être sur ce dispositif-là. Tous les dispositifs de documentation, maintenant, se sont extrêmement simplifiés. Quand je me suis inscrit à la SACEM, j'ai passé un examen. Quand Edith Piaf s'est inscrite à la SACEM, elle a passé un examen, elle l'a raté 3 fois.
D'accord. Ah, en plus, c'est oui, d'accord.
Il consistait en quoi, cet examen?
Ah, on te donne un thème, un papier, un crayon, et vas-y, écris-nous une chanson. Allez, feu banzai, la partition, tout. Ah, la vache.
Ah ouais.
Ah oui, c'était très. Ah,
d'accord.
C'était
très sérieux.
Ça, c'est fini, terminé. On n'est plus du tout là-dedans. Maintenant, c'est devenu très simple de s'inscrire à la SACEM, et surtout devenu très simple de documenter ses œuvres. Il n'y a même plus besoin d'envoyer quoi que ce soit. Il faut mettre un titre, un nom. On croit souvent à tort que le fait d'envoyer un petit MP3, mais non, mais en fait la SACEM s'occupe pas de ça. Elle ne référence pas les enregistrements, elle référence les œuvres et après le nom des œuvres. Et le système fonctionne. Alors,
on précise la distinction l'œuvre, l'enregistrement. On revient à cette idée du phonogramme, c'est absolument l'enregistrement. Donc c'est le domaine du producteur. Là où l'œuvre en elle-même, c'est l'auteur.
Moi, j'ai parlé. Ouais, moi, j'étais vraiment sur l'œuvre. C'est le niveau numéro un. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de fixation sur un support. Voilà. Donc oui, on peut y arriver, mais c'est bien de pas se réveiller trop tard. Alors même s'il y a plein d'histoires absolument fabuleuses autour de ça. Notamment l'histoire de Sixto Rodriguez qui découvre que Sugarman, que c'est une star phénoménale en Afrique du Sud. Bon, là, on n'est plus sur ces choses-là. Et puis surtout, les temporalités sont vachement raccourcies. Dire que un succès chasse l'autre et puis ça avance. Et puis il y a des habitudes qui ont été prises dans l'industrie de dire finalement on avance et puis ce qui est perdu est perdu. Chacun a son option.
J'ai une question avant qu'on passe ensuite à la figure du chaman, parce qu'en fait elle est liée au slasher et à une transformation.
Oui, en fait t'es en train de nous dire qu'on n'a pas du tout avancé depuis tout à l'heure.
Si, c'est passionnant. Mais justement, j'ai même insisté encore un peu plus sur ce dont on vient de parler. C'est il y a beaucoup de musiciens amateurs pros qui nous écoutent ou qui nous regardent. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ça, globalement, je viens de terminer une composition à la maison. Je suis mon propre producteur, c'est-à-dire j'ai tout fait sur mon ordinateur, etc. Autant je pense que la plupart des gens savent qu'ils peuvent faire appel à un distributeur, qu'ensuite ça leur permet de mettre ça sur les plateformes, et puis qu'ils vont toucher un peu d'argent si jamais ils sont un peu écoutés avec les royalties. Ça à peu près tout le monde sait. Mais c'est quoi les autres bonnes pratiques si on souhaite être rémunéré, tu vois, pour sa musique? C'est quoi les premiers réflexes? J'imagine que tu vas me dire déjà s'inscrire auprès de la SACEM.
Ah bah. Ça, oui, évidemment, c'est number one. S'inscrire auprès de la SACEM.
Pourquoi? Parce que ça va pas être les mêmes revenus que Spotify.
Mais non, parce que regarde, ton morceau qui est super, mais vraiment super. Il est sur Spotify.
On part du principe que je suis très talentueux, comme la plupart de nos auditeurs.
Écoute, on en parlait encore cet après-midi avec Michael, le frère de. Bon, bref, faut s'inscrire à la SACEM parce que ton morceau, il est streamé. La valeur du stream. Elle est faible, elle est connue. Et tout d'un coup, ce morceau, il va se retrouver parce que un directeur artistique, parce que un réalisateur va le synchroniser, va le mettre dans une série, dans une musique de pub, dans un téléfilm, dans un documentaire sur je ne sais pas quoi. Et là, le ratio de revenus va passer de quelques centièmes de centimes pour des streams à quelques dizaines de milliers d'euros pour les droits d'auteur. Parce que le mode de diffusion n'est pas le même et ça adresse pas le même type de droit. Donc c'est.
Est-ce qu'il y a d'autres organismes?
Oui.
D'autres organismes essentiels. SACEM.
Un. Ouais. SACEM. Comment? Okay. On commence par les œuvres, les droits d'auteur. Un. SACEM. Deux. Interprète. L'ADAMI. Donc ça c'est pour le droit des artistes de la musique et de la danse. Les interprètes principaux ou l'aspect d'IDAM. En tout cas l'ADAMI en premier. Deux, tu m'as dit que tu étais producteur. Mmh. Il faut vraiment s'inscrire à la Société civile des producteurs, la SCPP ou la SPPF. Il y a toujours deux sociétés. Tu prends date, tu payes tes inscriptions. C'est payant. Ça fait quand même un petit billet. Hein. Les parts sociales doivent être de l'ordre de... J'ai plus les chiffres en tête, mais une centaine d'euros. Donc, ça fait quand même un petit investissement au départ. Mais s'il n'y a pas ce ticket d'entrée, quand des droits vont se présenter, tu n'as aucun moyen de les retrouver. Et puis, savoir ce qu'on a fait. Et puis, bien sûr, après, utiliser un agrégateur de contenu, enfin, un diffuseur, une plateforme, un musician, un TuneCore, un DistroKid, celui que vous voulez, pour faire ses exploitations. Et chaque fois, les types de paiements vont arriver. Je l'espère, je le souhaite, vraiment, d'un peu partout. et parfois des petites sommes, et puis ça va continuer, et puis ça va s'agréger. Et puis, il peut y avoir à un moment un truc qui, poum, ça fait un peu plus, ou pas, ou 10 ans après. C'est ça qui est merveilleux avec les droits d'auteur, c'est que les droits d'auteur, ça court jusqu'à 70 ans après sa mort.
Et à chaque fois qu'on crée une nouvelle œuvre, encore une fois, on part du principe que je suis le producteur, interprète, oui, compositeur, je dois signaler cette nouvelle œuvre auprès de l'ensemble des organismes qu'on a cités.
Absolument.
Okay. Et directement sur leur site internet, je peux dire, voilà les informations.
T'auras ouvert des comptes sur toutes ces plateformes et tu feras tes dépôts et au début, et puis après, ça ira très très vite. Et il faut le faire. Et puis surtout, faut s'entourer de gens dont c'est le métier d'aller recouvrer les droits. Finalement, peut-être avoir un éditeur de musique, c'est pas si mal. Alors, ça va te coûter une part de tes droits patrimoniaux. Mais lui, son métier, ça sera d'aller rechercher plein d'exploitations, voire de t'en trouver d'autres, des auxquels t'as pas pensé, pour que rapidement tu puisses te détacher un peu de ces choses-là tout en ayant un œil dessus et te consacrer sur la zik. Voilà.
Oui, parce que la notion de slasher, elle est pertinente, mais il y a toujours la possibilité de s'entourer, de déléguer. Alors,
rentrer en major.
Exactement. Alors, certes, on touchera moins d'argent directement, mais par contre, on s'entoure de compétences. Et puis, si ça marche bien, parce que ça nous offre de la visibilité, parce que les compétences, elles sont utiles autour de nous, et peut-être qu'au final, on gagnera quand même plus d'argent. C'est chacun de trouver son truc, quoi.
On a autant d'exemples de gens totalement solo qui ont réussi des choses qui ont super bien marché et qui ont fait que ça leur a donné une autonomie financière, que de gens qui ont été malheureux dans des compagnies de disques, aussi bien chez des petits que chez des gros, parce que il y a beaucoup de populations. En tout cas, la réalité, c'est que dès que ça commence à fonctionner, ce que savent faire les professionnels du music business, c'est passer l'overdrive pour que ça passe la surmultipliée et que ça arrive à rentrer. Beaucoup d'ailleurs font le chemin de revenir d'une grosse entreprise pour monter eux-mêmes, en tout cas superviser et confier toute la gestion à des partenaires. D'autres se disent non, finalement cette partie-là je vais la déléguer. Tout est possible. Après, c'est des questions de masse critique et des questions d'argent. De toute façon, on n'a pas le temps d'être à la fois tout. Parce que ce qu'il faut, il faut que les idées arrivent. Et parfois, l'idée, elle, un petit peu, il faut aller la chercher, ouais, et elle tarde un peu à se planter.
Et puis, il y a plein de modèles hybrides, déjà. On peut déléguer certains trucs, pas en déléguer d'autres, etc. Le fait aussi d'être entouré assure pas toujours de complètement échapper à certaines tâches pas cool. Je pense à plein d'artistes, par exemple, qui se plaignent que, même s'ils sont en label, voire en major, on leur dit, bon, la création de contenu, il faut quand même que ton compte Insta, tu l'alimentes.
Ouais, mais là, c'est encore autre chose.
Ouais. Oui, mais ça fait partie du slash. Enfin, ça rentre ça peut être un des slash encore. Mmh. C'est-à-dire, bon, je dois œuvrer pour ma carrière. Alors, autant quand t'es indépendant, ça fait sens. Mais même des artistes établis, parfois, on leur demande ça.
Eh oui, parce que c'est lié on est revenu à notre histoire de nouveaux modes d'exploitation dont on parlait tout à l'heure, qui font que, ça ouvre d'autres possibilités et que finalement là on est dans la séquence streaming payant, hein. Donc avec les ce qu'on appelle les pure players, hein. Donc iTunes, Amazon Music, Spotify, Tidal, mais rien ne nous dit à 100% que ce modèle sera le même modèle dans 20 ans. Il y a celui-là, on l'avait pas vu venir, hein.
Oui,
personne n'avait pas vu venir, hein, vraiment.
Oui,
donc là, ce qui a agité beaucoup ces derniers temps l'industrie, c'est autour de TikTok, dire mais ça représente un manque à gagner par rapport à ce modèle. Et il y a une chose qui moi me titille avec mon grand âge, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore calé sur une matrice de compréhension du business qui date des années 80. En fait, qui date exactement de 1985. Au moment où il y a eu la loi qui a instauré les droits voisins, la rémunération pour copie privée, qui est toujours les fondements de notre système, avec des gens qui étaient déjà en place à l'époque, qui sont encore de dignes barons de l'industrie, qui résonnent autour de ce modèle industriel qui a tendance à se décaler. Moi, je suis l'ardent défenseur, le promoteur, vous l'avez pigé, du droit d'auteur, de cette chose-là. Mais je comprends que dans des discussions avec des gens plus jeunes qui n'ont pas du tout le même parcours, me regardent en disant « Mais tu dis n'importe quoi, mec, t'es plus du tout dans le coup. C'est pas ça, le truc, c'est TikTok, on change le tempo. » Je sais pas qui a raison. En tout cas, là, pour l'instant, on est dans ce modèle-là, et moi, je peux acter du fait que ça m'a fait vivre pendant près de 40 ans.
Mais du coup, c'est lié aussi à la structuration de l'activité, du métier, la potentielle, parce qu'on parle beaucoup d'inertie des maisons de disques, notamment, qui ont mis du temps à comprendre le virage Internet. On sait que l'ont carrément sous-estimé.
Sur le piratage, c'est indéniable.
Ouais, sur le piratage, globalement sur la diffusion numérique des morceaux. Et pareil pour le virage du streaming, elles sont complètement passées à côté. Donc en fait,
elles ont bien dealé avec Spotify, etc. au final. Enfin,
ça a mis du temps.
Par rapport à la situation catastrophique dans laquelle ils pouvaient se retrouver, ils récupèrent quand même pas mal d'argent.
Donc en fait, on se retrouve avec une mutation sur l'artistique, c'est-à-dire que les compositeurs et compositrices et musiciens, musiciennes se retrouvent à faire des trucs qu'ils n'avaient même pas imaginé faire au moment où ils ont appris à faire de la musique, par exemple, parce que tout le contexte technologique a changé. Mais on a aussi donc la partie administrative. On parlait de le droit à la copie privée, enfin le payer la taxe pour
la rémunération pour copie privée.
Voilà. Oui. Donc là, ça veut dire que actuellement en France, n'importe qui achète un ordinateur paye ou un
smartphone. En fait, c'est
un
vraiment
truc de stockage, un dispositif de stockage, enfin un dispositif dans lequel il y a du stockage numérique paye en fait. Il y a une partie du prix de vente qui revient à l'industrie, y compris si on n'écoute jamais de musique avec la machine. Je veux dire, tous ces trucs-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même, alors là c'est un peu la vision complotiste du truc, mais la mainmise hein, des gens en major avec leurs gros cigares comme ça et qui disent mais comment faire un maximum d'argent. Non, en fait le truc c'est de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui conseillent les maisons de disques sur l'état du monde et comment ça marche? Est-ce que ou est-ce qu'on attend que ça soit comme... Enfin, j'ai l'impression que le ce que ça donne comme image pour nous, personnes du peuple, c'est que les maisons de disques, c'est limite presque comme des administrations publiques, quoi, tu vois, où c'est long.
Déjà le terme. Enfin, après, je te laisserai répondre, Olivier. Tu connais certainement mieux que moi, mais moi, le sentiment que j'ai, en fait, c'est très vaste le terme maison de disques. Souvent, une maison de disques, en tout cas, les majors sont composés de plein de labels différents, avec des cultures différentes, des pratiques différentes. Ça, c'est un truc qu'on peut retrouver déjà.
Il y a quand même une compta, une cantoche, tu vois.
Ouais.
Mais on est sur une structuration relativement classique. Hein, de...
Ouais, c'est quand même très très divisé. C'est tellement de gens, dans le cas des majors, il y a tellement de.
Il y a bien des gens parce que il y a bien des gens qui sont au courant de ça. Il y a bien des gens en maison de disques qui ont dit à un moment donné, hey gars, il y a un virage qui arrive là. J'ai l'impression qu'on va se prendre.
Il y a des labels qui ont toujours été malins, hein, qui s'en sont bien sortis, qui ont même émergé. Alors des labels indépendants, etc. Mais je suis sûr qu'il y a des labels aussi de maisons de disques qui s'en sont bien sortis avec le virage numérique. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Olivier?
Ben, vous avez fait les questions et les réponses, en fait. Et c'est ça qui est pas mal parce que tout est valide dans ce que vous dites. La réalité sur de grandes compagnies, il en reste trois, hein. Donc, Sony. Alors, on va les citer dans l'ordre. Universal, Sony, Warner. Ah non, j'ai dit que je les citais dans l'ordre. Warner, en fait, ça dépend. Ça dépend de leur domaine d'activité parce que, comme tu l'as dit, ils ont des labels différents. En France, Universal a pas vu venir le hip-hop. Warner l'a senti.
Ouais.
Au moment où Universal disait le marché français, c'est Florent Pagny. Warner signait, on parle de la partie phonographique, signait à tour de bras des artistes émergents de musique urbaine.
Ils ont rendu beaucoup de contrats, mais...
Alors, après, ça s'est changé. Mais en même temps, là-dedans, t'as deux sujets. C'est-à-dire que t'as va avoir la diffusion phonographique, hein, le disque, et puis le publishing, les éditions musicales. Mmh. Et tu peux te retrouver avec un artiste chez Warner Phono, mais avoir les éditions chez Universal. Mais comment, en plus, t'as travaillé avec un beatmaker qui, lui, est en contrat chez Sony? Donc il y aura une coédition. Donc tu vois, ça c'est là-dedans. Donc on se retrouve. Ah mais oui, mais là tu te retrouves avec les avocats.
Ouais.
Merci les avocats. Les contrats, les tailles de contrats. Et en plus de ces grands groupes industriels, finalement la filière disque musique. C'est pas de balle.
Oui. Ouais.
Ils font du cinéma aussi. C'est pas les mêmes choses. Et tu sais quoi, le cinéma, c'est pot de balle par rapport aux jeux vidéo.
Bien sûr.
Et voilà. Et donc, on est dans ces industries. Et comme tu dis, là, il y a d'autres types de stratégies industrielles qui se pointent avec des investisseurs et parfois des combinaisons d'investissements ou d'investisseurs très curieuses. Des personnes très riches, on imagine, hein. L'investisseur, j'investis.
Chapeau de forme.
Ouais, mais non, mais des fonds de pension. Donc, les gens qui sont les gestionnaires des retraites des Américains. Ouais. Là, tu comprends plus. Donc, oui, il y a certainement, même pas certainement, il y a des stratégies qui sont définies. C'est tellement énorme que parfois ils se votent, parfois ils réussissent. Et puis après, il y a l'évolution. Et on va revenir au point de départ, on va revenir à l'œuvre. Parce que finalement, moi, j'accuse le vieux show business d'être collé sur sa matrice de 85. Mais moi-même, je suis collé sur une matrice qui a pas de sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un qui me dit, bah, tu sais, moi, mon truc, c'est de faire des morceaux courts. Je me filme et je les mets sur Instagram. Et je vais lui dire,
et t'as envie?
Eh ben, il va me dire, bah ouais, parce que tu vois, ma logique, là, je mets les droits d'auteur, là, ça saigne.
Bah ouais.
Non, moi, je fais de la monétisation, je fais du placement de produits, c'est un scandale. Bah non, mais c'est un autre schéma.
Un autre modèle, ouais.
Et il y a des modèles comme ça qui apparaissent. Le jeu vidéo en est un qui est assez dingue par rapport à ça. Dire que, au départ, tout était encapsulé, et puis, il y a des amateurs de musique de jeux vidéo, voire même de gens qui ont jamais joué au jeu, mais qui aiment ce genre de musique.
Je renvoie les gens. On a fait un épisode là-dessus, ben voilà, le dernier épisode absolument. De DLT qui porte sur ces sujets.
Exactement, comme les amateurs de musique de film. Donc ça crée des courants. Alors il y aura toujours des courants mainstream qui génèrent beaucoup d'engagement. L'idée, c'est l'engagement de la part du public, parce qu'après, je vous dirai aussi la vérité, qui est terrible, terriblante. Mais je vous le dirai qu'à la fin. Autour de ça, qui font que il y a des tendances, il y a des niches, mais une niche, même un marché de niche, c'est quand même un marché, puisque tout dépendra de terribles ratios. Voilà.
La question, c'est est-ce que finalement cette organisation-là, cette structuration-là du marché des professionnels, est-ce qu'elle est encore en phase avec l'époque? Tu vois, de la même manière que là, je regarde le clavier de Salman, on est en AZERTY sur son clavier.
Oui.
L'AZERTY, pourquoi est-ce qu'on a mis des touches comme ça et pas A, B, C, D, E, F, etc.? C'est parce que, à l'époque, des machines à écrire, le but, c'était que les marteaux des touches soient le plus espacés possible pour les mots les plus usuels, pour éviter que tu tapes deux touches qui fassent partir des marteaux côte à côte et que ça soit la merde.
Ok.
On a plus de machines à écrire depuis plusieurs décennies. On est toujours en AZERTY. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont l'héritage d'une limitation technique ou administrative et qui aujourd'hui en 2024 n'ont plus aucun putain de sens quand on l'observe avec un esprit naïf, tu vois.
Et dans la continuité, je veux dire, parce que notre sujet, c'est quand même rapport musique, technologie, etc. Par exemple, je me dis comment cette complexité administrative, notamment, je pense, les OGC, les organismes de gestion collective qui vont aller chercher l'argent, etc., la technologie peut pas aider à mieux s'emparer de ça, à être plus efficace. On a vu bien qu'elle a changé plein de trucs, mais ça...
En fait, ouais, c'est...
Alors... Je suis totalement d'accord avec vous, les gars. En plus, là, t'es sur un de mes sujets favoris qui est le changement de paradigme. Et effectivement, la vision un peu différente. Bien sûr, il faut adapter les modes de collecte de rémunération au mode d'usage. Alors, est-ce que c'est ces modes-là qui doivent s'adapter aux usages, ou est-ce qu'on doit modifier les usages pour qu'ils rentrent dans les clous?
On en revient. Il y a eu des tentatives.
Oui, mais après les curseurs ils sont ajustés autour de ça. Et oui, moi je considère qu'il y a une énorme faille et que cette faille on doit pouvoir la combler dans la mise en place d'un système, d'un dispositif, je sais pas si c'est une plateforme, en tout cas qui ait la possibilité de traiter en deux clics de souris, tout ce bordel qu'on vient de décrire depuis qu'on a abordé l'émission. La technologie est là. La question, c'est toujours la même. Qui va payer? Qui paye pour ça? Et la deuxième question, complotiste, à qui profite le crime?
À qui profite le crime?
Bah oui, mais c'est quand même une réalité. Moi, j'assume le fait de vivre de mon métier. Il y a des gens qui sont encore plus décomplexés par rapport à ça, et c'est une génération autour de. Bah oui, moi, je fais ça pour gagner de l'argent. Et alors, il n'y a pas de honte.
Mais alors, je me fais l'avocat du diable.
Ah.
On est donc dans un paradigme qui dit que toute exploitation commerciale d'une œuvre doit profiter à son auteur,
à ses ayants droit.
À ses ayants droit. Et là, je pourrais arguer du fait que. Bah ouais, mais moi, j'ai mis 12 secondes de ton morceau dans mon documentaire qui a eu un ours d'or à Berlin, ce qui fait que ça a généré des ventes de ton morceau. Les gens sont allés l'écouter en plus. C'est-à-dire que c'est des écoutes et de l'argent potentiel
c'est de la bonne
direct
pub, en fait. Tu devrais que, pas t'aurais pas,
que t'aurais pas eu sans le fait que moi, j'ai fait de la pub. Donc paye-moi, toi, artiste, pour mettre tes morceaux dans mes œuvres.
Non, mais là, tu décris quelque chose qui n'existe pas, qui ne se fait pas du tout. Les pratiques sont toujours vertueuses, mais bien qu'est-ce sûr. Que tu t'imagines dans quel monde nous vivons? Tu crois vraiment que
vraiment,
des gens oseraient faire ça?
Il y aurait
des gens
de
qui voudraient comme ça, qui voudraient faire de l'accaparement des œuvres? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Effectivement, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Alors on va dire, ah oui, mais attendez les amis, là c'est du business. Donc on fait des deals, on fait des arrangements. Et là pour le coup, on a des solutions qui nous protègent. Le droit d'auteur en est une. Dire que la limite de ce que je vais pouvoir céder est cadrée. Je peux céder une part de mes droits patrimoniaux à mon éditeur de musique, et là la SACEM dit oui. Donc ça sera au maximum 50%. On ne pourra pas aller au-delà. En tout cas, sur des exploitations d'exécution publique.
C'est fixé, c'est la règle, c'est la loi.
C'est comme ça, sachant que même dans l'audiovisuel, en fait, c'est un tiers. Donc, parce qu'il y a des règles de répartition. Parce qu'on a adhéré à la SACEM, on s'est tous dit qu'il y avait une idée intéressante autour de ça, de faire de la gestion collective, organisme de gestion collectif, et que tout le monde allait s'y retrouver. Donc, il y a des parts, il y a des codes. Et le système a l'air d'être plutôt valable, puisque même des mastodontes des industries ont adhéré à ça. Mais d'autres disent, nous, on veut prôner un autre dispositif qui consisterait à faire un dispositif qui est dit de buy-out. Je paye, j'achète, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Chose qui est, vous avez dû en parler dans le jeu vidéo, un système où longtemps les compositeurs français ont été en souffrance par rapport au jeu vidéo parce que l'industrie disait non, nous notre modèle économique c'est d'être titulaire de l'intégralité des droits, on peut pas se permettre de devoir verser des rémunérations proportionnelles. Ça c'est un peu assoupli, mais ça reste quand même un dogme. Et c'est vraiment un dogme anglo-saxon qui est lié au libéralisme, qui est pour eux incompréhensible. On est quand même, pour les Américains, de dangereux communistes.
Ouais. Oui.
En tout cas, sur ces questions de propriété intellectuelle. Et on s'est battu à Bruxelles pour la directive de l'auteur de 2018 en disant aux plateformes, alors je parle pas des pure players hein, de la musique, mais notamment, en gros, l'objectif, c'était YouTube et sa maison mère, Google et sa maison mère Alphabet, de dire, vous avez une responsabilité sur les contenus. Vous pouvez pas dire, oh bah, c'est pas nous qui les mettons.
On parle tout le temps des plateformes type Spotify, etc., mais les vrais mauvais payeurs, enfin les pires en tout cas, c'est YouTube et de très très loin.
Bah, en
pourtant,
tout cas,
ils nous font bien chier sur les chansons qu'on met par inadvertance dans nos œuvres.
En fait, c'est même une question. Je vais être super sympa. Je vais pas dire que c'est des mauvais payeurs. Je vais juste dire que le partage de la valeur est pas très équitable.
Ouais.
Ouais, je fais quand même un petit peu de politique. Hein, faut quand même que j'y aille mollo. Mais la question est vraiment là. Et on en revient aux fondamentaux. Et ce qu'on disait, c'est, bah oui, mais regardez, vous avez 4 milliards de recettes publicitaires. Et là-dessus, quelle est la notion de proportionnalité? Et on est revenu, il y avait des débats qui étaient très intéressants. Tout à l'heure, on parlait du producteur-producer. Il y avait un truc entre proportionnel et proportionné, avec la traduction anglaise. En plus, cette directive, elle était pourrie, parce qu'elle s'appelait la copyright directive. Mais la traduction de droit d'auteur, c'est pas copyright, c'est author's right. Ouais. Donc le droit d'auteur et le copyright, c'est deux notions juridiques, mais complètement opposées. Bon, je rajoute de la complexité à la complexité.
Ouais.
C'était pas l'idée. Donc, oui, il y a de nouveaux usages, et peut-être qu'à terme, des gens souhaiteront ne pas rentrer dans ce dispositif du droit d'auteur, de rémunération proportionnelle, de complexité de la SACEM, et dire finalement, moi je gagne ma vie avec la musique par du placement de produits, par des likes ou par des recettes publicitaires, et le droit d'auteur, je suis pas concerné. C'est un choix. Moi je pense qu'encore pour certaines années, certains grands nombres d'années, c'est pas forcément le meilleur choix.
Qu'est-ce qui est justement profitable en fait, par exemple si on prend une artiste comme Kate Bush, qui a eu donc l'essentiel de sa carrière dans les années de 70 à 2000, en gros, complètement tombé dans l'oubli par les jeunes générations, ce que je trouve assez déplorable, mais voilà, on connaît les jeunes. Et puis Running Up That Hill, qui est intégré dans Stranger Things, et là, paf, d'un seul coup sur TikTok,
et là,
max d'écoute. Et donc là, la question, c'est, est-ce que Kate Bush, finalement, son travail a été mieux rétribué du fait du droit d'auteur, ou est-ce que juste les recettes publicitaires avec des trucs qui ont été streamés 500 millions de fois, ça aurait suffi ?
Alors, si elle est autrice, compositrice du morceau,
ouais.
La part de droit d'auteur liée à de la diffusion a certainement, je ne connais pas le dossier, mais été de l'ordre de 100 fois plus que le stream. Parce que même avec des valeurs de stream très très élevées, et donc là on est en train de parler de centaines de millions, centaines de millions, voire de milliards, génère des droits. Mais génère des droits sur le stream et aussi sur les droits d'auteur. Donc tu vois, ça s'accumule au bout d'un moment. Donc il y aura ça, plus les exploitations audiovisuelles. Ça plaide quand même pour le droit d'auteur. On prend la SACEM, globalement, chaque année, au niveau de la collecte hein, de droits, on doit être, je sais pas, c'était leur assemblée générale hier. Je dirais.
18 juin.
Mais incroyable, quelle bonne idée. De Gaulle, on l'a dit tout à l'heure. c'est 1,4 milliard de collecte.
Ok.
Si on prend donc c'est collecte pour la SACEM France. Si on prend les chiffres du Syndicat National d'édition phonographique, donc tous les producteurs de disques en France, on peut vérifier. Je crois que le STEP, ils doivent en être à 900 millions. Donc déjà il y a un petit gap autour de ça. Alors après il y a des flux, c'est-à-dire que la SACEM va collecter aussi pour les Français, mais pour les étrangers qui sont membres de la SACEM, et il y en a beaucoup. Je serais d'ailleurs même pas étonné que Kate Bush soit membre de la SACEM, ou en tout cas ait confié l'exploitation de son catalogue à la SACEM. La SACEM gère sur le online, tout le streaming, tous les droits d'Universal. Parce que Universal s'est dit, oh putain, eux, ils ont la techno, ils ont le système informatique, ils savent le faire. On a un truc dans la SACEM, on parlait de, effectivement, le côté, bon, le kebab, c'est un peu dur, voire payé. Ouais. Mais ça, ce système, il est unique en Europe, d'avoir le réseau SACEM, d'avoir des gens qui, par région, vont aussi bien collecter le kebab, et ça fait bon, mais tous les concerts. Et ça, c'est pas rien. Et les magasins. Parce que autant.
Les DJ sets. Ça, c'est quelque chose.
Et les DJ sets. Mais tout. Absolument, partout. Quand une grande chaîne de magasins, je sais pas, dont le nom commence par car et finit par four, décide de mettre dans la musique dans son magasin, c'est pas par altruisme ou par amour de la musique. C'est parce qu'il y a eu des putains d'études scientifiques qui disent, mais tu sais que là, si tu passes au rayon poisson, tel morceau, là, ça va augmenter les ventes. Il y a du marketing autour de ça. Et pourquoi les auteurs n'auraient pas leur part? Ben là, c'est aussi parce que le réseau va collecter. Tu vois, tu tires un truc dans tous les sens. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes ces données, même si elles sont passionnantes. On en revient aux fondamentaux. Tu fais de la musique, t'es compositeur, auteur, compositeur, compositrice. Tu fais des œuvres, tu les déposes à la SACEM, tu t'inscris à la DAMI, tu fais ça. Parce que si t'es Kate Bush et qu'effectivement, à un moment donné, ta carrière et on passe malheureusement quasiment tous par ces phases-là, il y a un moment donné, ça peut repartir. Ça peut ne jamais repartir, mais ça peut repartir. Et ça peut repartir badaboum. Et je reboucle sur le cumul emploi-retraite où tu vois, les droits d'auteur tout d'un coup peuvent arriver et peuvent revenir. Et on a plein d'exemples de choses qui refont des succès. Si j'analyse un petit peu mon catalogue, dans ce qui me fait vivre, il y a des morceaux que j'ai composés il y a 25 ans et qui sont toujours exploités. Et c'est génial. Et en plus, parfois, je connais même pas les exploitations. C'est-à-dire, je reçois mon relevé, je dis, oh putain, encore. Mais ouais.
Tu peux avoir l'info de comment, qui a utilisé dans ce
cas. Bienvenue dans le monde numérique. Et effectivement, sur le portail SACEM. Donc, j'ai accès à mes répartitions, donc la répartition de mes droits d'auteur extrêmement détaillée. Donc, je peux prendre une œuvre, dire, tiens, quel type de droit? Audiovisuel, online, cinéma, diffusion, live. Et donc, je peux retracer, dire tiens, ça c'est des origines qui viennent du Guatemala. D'accord. Et découvrir que j'ai un de mes morceaux
qui est
utilisé dans une émission de cuisine au Guatemala. Putain, c'est le générique, dis donc. Elle
tu
passe
vas avoir l'info que
c'est
telle émission de musique,
oui,
de cuisine.
Pardon. Je peux retrouver. Alors parfois, il y a des données qui sont agrégées. Et globalement, comme beaucoup, c'est souvent le montant en bas à droite qui nous intéresse. Et quand tu les... Il y a un certain seuil où tu vas pas regarder, mais généralement tu le trouves trop faible. Donc tu vas chercher. Ou toi-même, tu as eu l'information et quelqu'un te dit, tiens, J'ai entendu, il y a ce truc-là qui marche vachement bien. Il y a eu des exemples dans le, dans, dans le passé, il y en a toujours. En plus, maintenant, c'est facile de retrouver, si tu tombes sur une vidéo. Moi, mon kiff, pendant des années, c'était le dimanche. Alors moi, je regarde la télé, excusez-moi, j'ai l'âge que j'ai, hein, de regarder des chaînes de documentaires.
Et d'écouter.
Et tout d'un coup, tu te dis, ouais, ce truc-là, je connais. et tu te dis, waouh, c'est moi. Ouais. Ça te fait le même effet que quand tu t'entends à la radio. Tu te dis, ah ouais, d'accord.
Est-ce que t'es crédité dans le générique de ces trucs-là?
Ah, voilà une question intéressante. Alors effectivement, la plupart du temps, non. Ouais. Enfin, mal.
Parce que t'as fait de la musique.
Sauf si c'est une musique originale. Ouais. Non, normalement, contractuellement, tu peux le demander à l'autre. Mais t'as vu comment passent tes génériques. Oui. Hein. Bon, ça défile. Donc ça, c'est dommage parce que du coup, pour retrouver si c'est pas rentré dans les documentations, ça, c'est un problème. Parce que le nom générique, là, c'est,
oui,
c'est
ouais,
nickel.
C'est
tu parlais tout à l'heure de comment on fait pour aller clamer, enfin, faire, ouais, faire des réclamations. Ça, c'est imparable. Mais je peux regarder déjà, dire, tiens, ce truc-là, est-ce que ce programme apparaît? Est-ce que j'en ai une trace? Et puis après, c'est un long processus d'aller récupérer, faire le recouvrement, voir si les droits ont bien été payés. C'est là où c'est génial d'avoir un éditeur. Parce que je lui dis donc, hey, mec, là, on a récupéré le pognon sur ça. Parce que quand lui va me récupérer 50 balles, il va s'en récupérer 25 ou un tiers des 50, suivant le type d'œuvre. Voilà.
Ce que je vous propose, pour pas non plus trop perdre, parce que là, ça fait beaucoup d'informations, etc.
Non, mais il faut que tout le monde lise le livre.
Mais d'une part, évidemment, création musicale et technologie du chaman au slasher. Mais justement, dans le titre, il y a le chaman. Il faut enfin qu'on parle quand même de ce fameux chaman, pardon. Parce que, dis-nous d'ailleurs, tout simplement, ce que c'est pour toi, cette notion de chaman. Est-ce que réellement, ça a supplanté le slasher? C'était un peu ce qu'étaient les compositeurs initialement, le chaman, si je comprends bien.
Alors, moi, j'ai ma vision du chaman, et c'est mon point d'entrée, c'est de dire effectivement, donc le compositeur, l'artiste, le musicien, on va l'appeler comme on veut, mais on va rester sur chaman. Bah, il a, parce que c'est le créateur, pas le créateur, hein, c'est un créateur. Il a cette notion de passeur d'émotions, de passeur de transmission. Il peut soigner les gens, on peut soigner par la musique, il peut les encourager. Donc c'est vraiment cette personne, un peu ce magicien, quand il commence à jouer, bah lui sait le faire, d'autres ne savent pas le faire. Donc on part de cette figure emblématique. Alors le chaman, il est pas forcément en haut de l'échelle sociale, il est même parfois tout en bas de la chaîne alimentaire. C'est le troubadour qui va parcourir les routes, à qui on file un repas, qu'on invite dans un mariage parce que il va jouer un peu de musique parce que lui sait le faire, ou ils vont se mettre à plusieurs, ils vont faire un orchestre. Ça, c'est cette notion humaine qui fait que, parce que justement on a ce côté chamanique, qu'on est les compositeurs et qu'on fait des œuvres. Ouais, et que ce qu'on fait est une œuvre, contrairement. Là, voilà.
Et qu'il y a un rôle social,
alors,
etc.
Évidemment, il y a une dimension, et cette dimension sociale, dans beaucoup de sociétés, elle est fondamentale. L'homme médecine.
Et ce que je trouve intéressant avec cette notion, après on va la relier au slasher, mais c'est justement, on a bien vu là les discussions qu'on a eues autour du slasher. C'est-à-dire qu'on était complètement dans le côté, c'était l'évidence du côté très industrialisé, de l'économie, de machin,
l'argent,
etc.
L'argent.
Et d'ailleurs, dans cette émission, on le retrouve dans le bouquin, on essaye de, qu'il n'y ait pas un élément qui prenne le pas sur l'autre, pas une casquette pour toi dans ton cas qui prenne le pas sur l'autre non plus. Et avec cette notion de chaman, on revient aussi à une partie, c'est une vision plus angélique, entre guillemets, mais qui est réelle, en fait, aussi, du rôle d'un musicien. Est-ce qu'il fait? C'est pas que aller chercher ses droits. C'est aussi avoir un rôle social.
Bien sûr. C'est le point d'entrée, c'est quand même d'avoir une proposition artistique. Parce que finalement, quelle que soit l'esthétique, hein, qu'on développe, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de hiérarchie autour de ça. D'avoir cette proposition artistique et de transmettre cette proposition artistique. On peut être, enfin, moi, j'ai été pendant longtemps et je suis toujours d'ailleurs le meilleur compositeur de mon studio.
Bravo.
Eh ben oui. Alors après, si je m'étends à l'immeuble où j'ai mon studio, il y a mon petit voisin qui est pris de conservatoire à la trompette.
Ah.
Donc là, il me challenge un peu, en tout cas sur les instruments avant. Donc il faut que je fasse gaffe. Mais c'est parce que je vais aller diffuser cette musique et que je vais sortir de mon studio. Et là, il y a vraiment cette notion où on est à un moment donné un peu entré dans une phase de régression. Je fais mon truc pour moi dans ma chambre, je le fais à moi. Puis de toute façon, vous pouvez pas comprendre. Bah non, faut aussi arriver à sortir. Et c'est épouvantable. La pire expérience du musicien, du compositeur, du chaman, on l'appelle comme on veut. Le pire truc, c'est le moment où je prends le morceau que j'ai fait, que j'ai sorti, qui vient de là, et que je le fais écouter. Et que là, le retour que j'ai, c'est pas... c'est... Ouais, attends, ouais, ouais. Non, c'est bien, attends, c'est bien. Ouais, non, ce que je voulais te dire, c'est que... Non, mais ben, t'es en train d'écouter le corps, de mes tripes. Ça, c'est un truc qui est très difficile d'aller faire écouter. Alors, c'est aussi difficile de le faire écouter à ses proches et d'avoir leur retour, qui peuvent avoir soit un enthousiasme formidable. Ça, vraiment c'est bien.
Plus
mais,
difficile avec les proches.
Mais, ouais. Mais c'est délicat. Ouais. Ou le truc, ouais, c'est bien. Ou, ah, oh, c'est génial ton morceau à toi que tu as fait. Il me fait penser à Kate Bush. quand on démarre, souvent, on a fait la tour. Alors, moi maintenant, mais quand on faisait la tournée des popotes des maisons de disques, alors, qu'est-ce que vous faites comme musique? Alors, moi, je fais un truc qui est très personnel. Ok, merci, au revoir. Mais non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Moi, je fais comme Jean-Jacques Goldman. Ah, bah, Jean-Jacques Goldman, on en a déjà un. Fais voir. Ah oui, bah, tiens, ça nous en fera un deuxième. Bon. Non, mais c'est terrible. Et alors, après, tu mets ce même système quand tu dois l'envoyer à quelqu'un qui est ton commanditaire, qui est ton donneur d'ordre, qui est celui qui a le pouvoir de vie et de mort. Parce que, soit il te dira oui, je prends le morceau, et c'est pour acheter ton paquet de nouilles. Ou mieux, il te dira non et tu comprendras pas pourquoi il t'a dit non, parce que c'est ton morceau, t'as mis le maximum dedans. Alors là aussi, tu te retrouves face à des gens qui mettent les formes, mais de moins en moins. C'est, tout le monde a vécu ces trucs là ça c'est super dur, et c'est là où il faut aller puiser dans des ressources un petit peu intimes, de dire ok, je dépasse ce truc là et je continue. Et j'y retourne, et j'en refais un, et j'en fais d'autres.
Puis, tu nous diras ensuite si, à ton sens, le slasher a symboliquement supplanté le chaman, si en fait, si d'une certaine manière, l'art n'est pas corrompu par l'industrie d'une certaine manière. Est-ce qu'on reste encore dans le domaine de l'art, tu vois, lorsque ça prend le dessus en Europe? C'était avec Samir Hamad dont on parlait, c'est un peu rapidement en début d'émission, un rappeur qui disait, oui, je sais plus ce qu'on évoquait, puis il disait, mais ça, c'est pas de l'art, entre guillemets. Enfin, c'est pas forcément dévalorisant, il peut y avoir des productions intéressantes, etc., mais peut-être que l'art, c'est encore autre chose. Alors, est-ce que le chaman fait de l'art? Est-ce qu'il en fait pas toujours? Est-ce que le slasher peut faire de l'art malgré tout le bordel
surtout,
économique
est-ce que
derrière?
Les gens qui en vivent avec la massification des moyens de production en indépendance, la facilité qu'on a maintenant à la diffuser, est-ce qu'on part du principe que l'artistique préside toujours à la création d'une œuvre, ou est-ce qu'il y a des mecs en fait qui ont aucune connaissance de solfège, d'harmonie, de trucs qui peuvent faire un...
Après, ça, c'est pas nécessaire pour être artiste, mais en fait, c'est l'intention.
Bah, c'est la question,
l'intention,
en fait.
Tu parlais au début d'ailleurs, qui est intéressante.
Bah ouais, alors, donc, on l'a dit, on est en juin, on est au moment du bac philo, donc l'art peut-il être une industrie, l'industrie peut-elle être de l'art, hein, vous avez 2 euros autour de soi. Mais il y a vraiment un sujet autour de ça, et il y a des courants de pensée, clairement, qui consistent à dire, oui, à partir du moment où il y a une notion de marchandise, l'art peut-elle être une marchandise, et je vous renvoie sur un bouquin écrit par Jacques Attali, vous voyez, genre de référence.
Okay.
Mais il a écrit dans les années 70, un bouquin qui s'appelle Bruit. Mm-hmm. Et il fait une analyse, justement, alors, il y a quelques choses sur lesquelles je partage pas du tout son point de vue, mais il a eu une vision, à un moment où on était quand même à un tournant industriel de la musique, de où ça pouvait atterrir. Et il a plus ou moins esquissé l'idée de cette consommation en streaming. Voilà, petite parenthèse,
ah
mais
ouais,
ça vaut le
coup.
Ouais, tu te dis quand même que avec
le prophète, quoi.
Ouais, il a un chaman. Ouais. Il a senti un truc. Bref, on peut tout à fait considérer, et c'est respectable, de gens qui disent non, moi, je ne veux pas tiré de rémunération de ce que je fais. Je suis complètement opposé au principe du droit d'auteur. Je suis complètement opposé au principe d'une propriété. Le droit d'auteur, c'est un concept bourgeois. C'est quelque chose moi, je veux une approche très prolétarienne de ça, et offrir. On fait ça pour offrir. Tout le monde peut utiliser. Ça doit être l'art, ça doit être public et offert à tous. C'est tout le débat qu'on a eu pendant Adopi et pendant le piratage. Donc moi, je respecte ça. Je respecte les gens qui veulent sortir de ce système-là, pas de problème. Il faut aussi le corollaire de ça, qu'eux-mêmes puissent comprendre que d'autres décident de prendre une voie qui est de dire, au travers de mon art, au travers de ma création, au travers de l'intégrité que je vais y mettre, je veux pouvoir en tirer une rémunération, et c'est de par cette rémunération que je pourrai continuer à être intègre. Après, par rapport à ce que tu dis, je connais le solfège, tu peux prendre le dernier matos de la mort qui sort. Mmh. Tu peux te mettre en distribution, tu peux mettre le paquet d'oseille maximum qui fait, t'as pas la garantie de faire un succès. Beaucoup ont essayé, tout le temps, ils ont toujours essayé. Hein, c'était c'était l'électromium chez à la Motown, de dire on a une machine qui va fabriquer des tubes, on a un algo qui va faire des tubes, on a une IA. On n'a pas besoin d'IA pour savoir que do la mineur fa sol, ça va faire un morceau qui va avoir de la tenue, et de toute façon il y en a déjà 350, 1000 qui font ça. Il y a un petit truc en plus. Et le truc, c'est ce que tu vas donner, mais surtout ce qui va être ressenti de la part du public. Parce que ça, c'est le matin que je vous livre la vérité. Mmh. Le public, c'est le public qui décide. Et le public, il est méchant. Il est méchant. Il est vraiment méchant. Parce qu'un coup, il aime. Un coup, il t'aime. Un coup, il t'aime plus. Un coup, il te re-aime. Un coup, quand il est public fan, il veut qu'on défende les artistes. Mais quand il devient consommateur, il préfère aller télécharger sur Mega Upload. Et voilà, tout se complexifie. Alors, moi, je veux passer un message positif. Hein, tout ce qu'on a dit, tu te dis, mais laisse tomber, je vais faire autre chose. Mais non, mais tu fais autre chose, ce sera pareil. Si c'est ça que tu as envie de faire, vas-y, fais-le. Oui, il y a des embûches. Oui, tu vas peut-être te faire avoir par des margoulins, le monde est peuplé de malfaisants, on le sait. Mais tu vas rencontrer des gens super aussi, des connard, mais aussi des gens super, des gens avec qui tu vas plus t'entendre, des gens que tu vas adorer, que tu vas détester, tu vas faire des trucs, des projets, puis on va se rabibocher, et puis on va revenir. Mais en tout cas, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être libre et pour le vivre bien, il faut quand même se mettre un tout petit peu la rate au courbouillon pour choper quelques dispositifs, ou en tout cas qui feront un minimum pour pouvoir au moins se payer le paquet de nouilles. Moi, j'aime bien les nouilles, hein, donc
souvent. Après, il y a quand même un élément qu'on peut rajouter, c'est que autant le slasher, bon là je parle de manière schématique, hein, mais c'est parce que c'est un peu l'accroche du bouquin et tout, c'est plus fin que ça, mais globalement, pour faire simple, le slasher opposé au chaman entre guillemets, autant le slasher, lui parce que il a une raison d'être économique dans notre société, sa survie n'est pas forcément remise en question. Alors après, dans quel nombre on en garde, etc. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il peut avoir une fonction et ramener de l'argent. Donc autant le chaman, lui, on peut se poser la question de sa subsistance, sa future, etc.
Oui, mais tout à l'heure, tu parlais du rôle social. Alors moi, je préférerais un rôle sociétal. Mmh. Tu vois, mais
sociétal, pour moi, c'est un peu la même chose. Mais oui, bref, c'est peu importe.
La sémantique, c'est génial. Et en plus, là, le français, bon, là, on peut y aller à fond. D'accord, je prends le point.
C'est faire communauté.
Oui, voilà. Donc en fait,
les sujets autour de.
C'est décorrélé de la question financière. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire le reproche de dire bon bah lui, il a gagné beaucoup d'argent, il est parti s'exiler sur la lune, à Dubaï, je sais pas où.
En Argentine.
Au Portugal.
Il y a trois jours.
Mais il peut aussi avoir un rôle au travers de ça. L'argent ne pourrit pas tout, ça pourrit beaucoup de choses, mais ça permet aussi de faire. Et on a de beaucoup d'exemples de gens qui en plus à bas bruit aussi, qui sont des figures rendues riches par le show business ou le music business, hein, je sais plus si on peut dire show business en 2024, ça fait un petit peu vieillot, continue autour de ça. Alors, je vais pas vous faire du macronisme à deux balles en vous parlant du ruissellement, mais il y a aussi une réalité par rapport à ça. C'est de faire vivre des communautés, d'entretenir directement ou indirectement des communautés. Et là, on revient sur ce côté chaman. Et moi, je pense que le slasher peut redevenir chaman autour de soi. Mais là, c'est les individus qui vont décider de ça. Certains voudront communiquer, certains voudront pas le faire, et d'autres le font. Mais il y a vraiment un rôle autour de ça. Et de toute façon, ce qui restera toujours, au-delà du compositeur, c'est l'œuvre. Parce que c'est ça aussi qu'on aime. Parce que l'œuvre est la relation étroite qu'il y a avec l'interprète, ou les interprètes. J'ai entendu un vieux morceau, un morceau pour les gens de mon âge, un morceau des Corgis qui était Everybody's Got to Learn Sometimes.
Bien sûr.
Et je suis tombé sur une version de Beck. Mm-hmm. J'entends ça à la radio. Vous savez, le radio, c'est le truc qu'il y a dans les bagnoles.
Je vois, j'ai entendu parler. Hein.
Mais quoi? Et... les bagnoles.
Ah putain, c'est dur, c'est dur. Et je me suis arrêté et je dis waouh. Alors, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime le morceau? Est-ce que j'aime ce cover? Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? J'ai essayé de décrypter le truc. Je dis, bah ouais, mais moi, j'aime le morceau parce que je l'associe à un truc quand j'avais 17 piges pour choper des gonzesses. On mettait ce truc-là, tu te dis, si c'est maintenant ou jamais. Donc, ça me fait des souvenirs. Et puis après, j'ai ma putain d'oreille analytique où quand j'entends le truc, je dis, ah non, mais là, mais bien vu. Ah, mais là, oui, ils ont raccourci cette partie-là. Donc, la coda arrive là. Oh, le truc, putain, la guitare dans la fuzz. Et ça me renvoie sur ce truc-là. Et je me dis, mais est-ce que je prends l'arrangement, je le décale sur un autre morceau, ça peut me faire pareil. Ben, j'en sais pas. Là, c'est vraiment cet ensemble-là. Il y a un gars qui fait un truc, qui fait un truc super. Eric Benzi. Eric Benzi, c'est l'arrangeur de Jean-Jacques Goldman, de Céline Dion, petite carrière. Et Benzi, il fait des masterclass de musique. En plus, Benzi, c'est un musicien, mais qui a fait aussi, c'est un slasher. Il était ingénieur du son aussi, il mixait les albums, il faisait le mastering, il faisait un petit peu tout. Et donc, dans les exercices qu'il file dans sa masterclass, il dit, OK, bah, il est de Marseille, hein, Eric. Il dit, bon, bah, tu prends n'importe quel morceau. Tu vois, tu le prends le morceau, là, l'œuvre, le morceau, et tu me fais l'arrangement de Every Breath You Take.
D'accord.
Alors attends, c'est foutu comment Every Breath You Take? Ah oui, alors il y a la guitare en cocotte, il y a la basse qui fait pom pom pom, et donc tu dis comment je vais torturer le truc, et après tu dis bon alors en fait qu'est-ce qui te plaît dans le morceau là? C'est Every Breath You Take. Bah tu fais Every Breath You Take, tu t'emmerdes pas avec un nouveau morceau. Mais si c'est un nouveau morceau, et bah tu vois comment tu peux le rebricoler, lui donner une nouvelle version. Et on a plein de versions. À ce titre-là, si tu veux, j'ai trouvé débile, mais vraiment tout ce qu'il y a eu autour d'Aya Nakamura, qui va quand même pas oser chanter Piaf.
Ouais.
Mais putain, mais des versions de La Vie en Rose, Miller, mais tu vois, voilà. Au contraire, je trouve que même, vas-y, on va te challenger. Ça va être quoi ta version? Parce que là, la barre est super haute. Il y a déjà eu plein de versions. C'est quoi ton apport? Parce que si tu vampirises le morceau, on va te dire, bah ouais, mais là, c'est plus le morceau. Et si tu te dis, bah ouais, bah, t'as pas d'apport créatif. Enfin bon, c'est des trucs qui sont super passionnants. Donc il faut que ça vienne un petit peu du fond. Il y avait une question, pardon, je ne sais plus.
Ouais, non, mais on y a répondu sur la tension chaman slasher et leur avenir. On comprend à peu près. Initialement, j'imaginais des parties très très séparées, comme d'habitude.
En gros, je
pensais, en fait, je voulais qu'on parle un peu du métier de compositeur, enfin, notamment par rapport à l'administratif en particulier, puis chaman slasher, etc. Je voulais qu'on parle aussi un peu de l'évolution des outils de création, le matériel, le lieu d'enregistrement, puis enfin de comme la façon dont on reproduit. On partage la musique, mais en fait, on a parlé un peu de tout ça en fil conducteur, en parlant du métier de compositeur en réalité. Donc ça me va. On a à peu près, on n'a pas tout détaillé, mais je crois on n'est pas loin de 2 heures d'enregistrement. Ouais. Je pense qu'on est déjà pas mal. Il y a un élément par contre. Alors tu parles un peu d'IA par exemple dans ton livre. Tu parles des évolutions aussi. Alors là, le côté un peu plus geek de matériel, ouais, etc. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu quelques parallèles d'une autre manière, hein, avec Laurent De Wild qu'on avait reçu sur son bouquin sur les grands créateurs, etc. Alors beaucoup plus développé dans le travail de Laurent. Parce que là, c'est pas que là-dessus dans le bouquin.
Laurent, c'est une bible. C'est une bible. C'est l'ouvrage de Laurent. De toute façon, personne ne pourra passer derrière sur ce sujet. Lui-même a du mal à passer derrière d'ailleurs pour écrire une suite. Non, mais vraiment, c'est le truc absolu. Et tous les gens qui tombent sur ce livre,
les fous du son,
oui, se disent ah ben ouais, d'accord, voilà.
Bon, en tout cas, on retrouve quand même aussi quelques éléments dans ton livre sur ces évolutions technologiques, etc. J'invite les gens à le lire pour si ça les intéresse. Il y a un élément que j'ai trouvé original dans ton approche, c'est que tu parles aussi un peu de l'enseignement. Et ça, c'est plus rare. À la fois de l'enseignement, évidemment, pour reconnecter à cette idée de slasher, bah, des aspects administratifs, etc. En fait, l'espèce de pédagogie qu'on a essayé de faire dans cette émission, en fait, il devrait y avoir des ressources, j'imagine, disponibles pour que les gens apprennent à faire ça. Et la technologie, elle est là pour nous aider à faire ça en théorie, pour mettre à disposition des ressources facilement aux gens. C'est le cas aujourd'hui ou pas assez? J'ai l'impression que pas assez quand même, non?
Voilà, c'est ma réponse. C'était ta question. Bah oui, il y a, on va dire, une petite faille pour être très... Bon, bref, c'est le bordel. Ça va pas du tout. Il y a vraiment un souci par rapport à ça. On ne forme pas les gens à être des professionnels. On forme les gens. Et on a une filière d'excellence en France autour des dans la musique, hein, autour des conservatoires nationaux, pour être d'excellents instrumentistes. Compositeur, c'est plus compliqué parce qu'on est quand même sur l'héritage de dire oui, bah, enfin attendez, compositeur, monsieur, vous n'êtes pas Maurice Ravel, ni Claude Debussy ou Beethoven, suivant les suivant les écoles et les influences. En revanche, sur cette dimension de pratique professionnelle, et moi ce que j'appelle vraiment de mes voeux, vraiment la professionnalisation, c'est le désert total. C'est pas vrai qu'en musique, hein. C'est vrai dans toutes les écoles d'art. On ne forme pas les gens à une pratique du métier. Au mieux, on va les former à un métier qui est très respectable, qui est le métier d'enseignant, ou le métier d'être interprète au sein d'orchestres nationaux. Mais c'est pas parce qu'on a créé une classe de MAO que... bah non, parce que c'est pas comme ça que ça suffit pas. Il faut aller au-delà de ça. Donc pour moi, il y a un manque là qui fait que... les gens sont lâchés là-dedans et puis bah se retrouvent tout de suite confrontés à des murs d'incompréhension, de légendes urbaines qui font qu'ils accumulent du retard, voire ils baissent les bras en disant attends, qui vient de nous raconter pendant 2 heures, bah, laisse tomber, moi je veux faire de la zik, je veux pas faire toutes ces conneries là. Voilà.
Pour être un peu juste, parce qu'on avait fait un épisode là-dessus aussi, on avait reçu à la fois des gens de FGO Barbara et du Fer aussi. En fait, il y a des dispositifs d'accompagnement qui cherchent à pallier un peu justement ces lacunes qui peuvent exister. On peut aller toquer au port d'une SMAC, etc. Il y aura des gens éventuellement qui peuvent un peu accompagner à la fois sur le développement artistique, mais aussi professionnel, apprendre le métier, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a pas de place pour tout le monde, et qu'en fait, il devrait y avoir un enseignement un peu de base, et t'as raison, pas que dans la musique, etc., disponible à tout moment pour comprendre comment ça fonctionne. Quoi.
L'accompagnement, c'est pas la transmission, c'est pas l'enseignement, c'est pas l'éducation. Ouais. C'est des concepts radicalement
d'ailleurs,
différents.
Ils aiment pas l'accompagnement comme terme. Ben
non, mais bien sûr, évidemment. Mais réellement, c'est ce qu'ils font. Donc c'est dire on va vous aider parce qu'on va, il y a un grand truc, c'est la structuration professionnelle ou la structuration d'un environnement professionnel. C'est bien. Il y a un truc, alors pardon, je sais que ce propos, il est très délicat à manipuler au Centre national de la musique.
Je crois qu'il est pas content, Olivier.
Non, mais là vous m'avez chauffé les gars. c'est un concept qui est délicat. Au Centre national de la musique qui est très nouvellement créé, hein, c'est le dernier centre national qui a été créé, il y avait avant le CNC, le cinéma, le CNAP, le Centre national des arts plastiques, le Centre national du livre, et en plus le pauvre Centre national de la musique, il naît l'année du Covid. Bon. Il y a, pour accéder à plein de dispositifs, alors je peux pas dire accompagnement, je peux pas dire aide, je peux pas dire subvention.
Soutien. Moi,
voilà, soutien, dispositif de soutien. On dit, le point d'entrée, c'est d'avoir suivi la formation sur les violences faites aux femmes. Je suis d'accord que c'est un sujet extrêmement saillant. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi une formation sur... les droits sociaux dans la musique. Parce que si déjà on commence par ça, de dire que oui, on traite pas les gens comme... on se fait pas traiter comme de là, bah on traitera peut-être pas les autres de la même manière. Et ça, j'ai l'impression parfois que les points d'entrée sont aussi louables soient-ils, sont le résultat de réactions émotionnelles. Je suis...
c'est-à-dire que c'est très politique.
Je vais même pas me justifier autour de ce que moi je pense de ça. Mais dire, attention, ne nous trompons pas de chemin. Dire, il faut prendre un petit peu les choses dans l'ordre. Si, dès le départ, on t'explique pas des fondamentaux, bah ouais, tu comprends pas. Et presque à la limite, on peut presque pas t'en vouloir de pas avoir compris. On te l'a prédit. Donc ça, il y a un souci par rapport à ça. Et surtout, qui sont les encadrants? Qui a formé les encadrants? Donc, moi, j'aimerais bien, j'appelle de mes voeux que ces centres nationaux, tous, hein, autant qu'ils sont, et c'est un petit, et j'ai un petit peu pas un combat, en tout cas, cette activité dans mes activités institutionnelles, de dire, prenons le volet social, parce que c'est aussi un point d'entrée. Si les gens vivent mieux, sont moins dans la galère, bah peut-être que leur comportement, ce qui veut pas dire qu'il y a pas de riches qui se comportent comme des salopards, mais en tout cas déjà ça va aider, et on en revient à ton rôle social par rapport à ça. Il faut donner ces clés là. Moi je déplore qu'il y ait On n'y est pas encore sur ça.
D'accord. Donc pour revenir à cette histoire des dispositifs de soutien qui peuvent exister, parce que il faut pas non plus dire aux gens que c'est pas utile. C'est-à-dire que un artiste en développement, c'est toujours intéressant d'aller toquer encore une fois à la porte d'une SMAC, etc., et que c'est utile en réalité. Là où ce que tu regrettes, c'est que ça ne répond pas à toutes les réponses des problématiques de société.
Oui,
dans l'occurrence,
mais je vais même aller beaucoup plus loin que ça. C'est que justement à l'époque de la création du CNM, moi j'étais le promoteur justement d'un dispositif de soutien, d'accompagnement, d'aide, de subvention, de financement, destiné justement aux auteurs en compositeurs, en disant attention, on n'aide pas le premier niveau qui est la création des œuvres. Le reste, l'industrie, elle n'existe pas si.
C'est
si
souvent autour de l'artiste et de l'interprète.
Oui,
quand même, souvent.
Donc il faut aider ça. Et donc j'ai quand même entendu de haut responsable de dire non, mais attends, on va quand même pas filer du pognon aux compositeurs, ils vont dépenser l'argent. Celle-là, elle a fait mal. Alors, j'ai réagi à l'époque par rapport à ça. Non, mais pourquoi on soutiendrait ça? Non, il faut soutenir l'interprétation, il faut soutenir la production, et il faut soutenir l'industrie. Parce que c'est des gens sérieux. Les compositeurs, même les artistes, ils vont acheter du matos. Non.
Ah oui, bon, mais... Même si, pour être honnête, beaucoup d'interprètes dans des musiques populaires, etc., sont aussi souvent compositeurs. Par contre, c'est vrai qu'un pur compositeur qui ne voudrait pas incarner derrière, etc., pour lui, c'est un peu plus difficile.
Mais justement, c'est parce que c'est une chaîne, et c'est une chaîne de valeur, et que si déjà, dès le départ, il y a cet accompagnement qui est fait sur cette composition, bah, c'est déjà beaucoup. Bon. Bref, ça, c'était autour de ces dispositifs. Ça a été très compliqué. Maintenant, ça existe. Mais, en fait, finalement, le système, il est même combattu par les gens eux-mêmes, parce qu'il y en a qui seront éligibles, d'autres qui sont... Faut mettre des critères. Et ça, c'est un truc qui est super compliqué à comprendre pour tous les gens qui sont... Alors, on parle des primo-entrants, en tout cas, qui veulent se lancer. C'est la plupart du temps, ils sont hors critères. Parce que les critères sont faits à des stades différents. Et je défendais, moi, et je défends toujours l'idée, qu'en fait, l'idée de l'accompagnement, mais on en a besoin, mais tout au long de sa vie, au long de sa carrière, à des degrés divers, et qu'il y avait toujours des trucs, c'est dégueulasse, le pognon va chez Universal pour payer un album de Johnny Hallyday. Mmh. Mais oui, mais c'est une autre logique industrielle. Il y a besoin d'un soutien par rapport à ça. Et puis, parce que ça crée de la valeur. Donc, les sujets sont délicats.
Et voilà. C'est justement censé être la logique. Enfin, c'est pas l'unique logique, mais en tout cas, on se dit naturellement que, en fait, il y avait un problème de rien ne centralisait l'univers musical. Et c'est l'idée du CNM, justement.
C'est l'idée du CNM.
On centralise, on est là, si, à la fois pour la gestion des subventions, etc., des accompagnements, etc. Et nous, on peut, ça veut pas dire ne pas déléguer. Ils vont pas tout faire en interne. Mais en tout cas, ils peuvent chapeauter, avoir un regard global, apposer, j'imagine, un label de qualité, etc., parce qu'il y a une maîtrise, quoi.
C'est pas encore le cas.
Mais ça devrait être le but.
Ça devrait être le cas. Il y a encore.
Mais il y a l'air. Parce qu'il y a notamment, alors, je sais pas si tu peux le dire, moi je le sais parce que j'ai lu des articles, etc. Globalement, la question, par exemple, du financement de ce CNM, est très compliqué parce que c'est très politique évidemment et tout le monde n'est pas d'accord sur comment on doit les financer, quel argent on doit mettre, etc. Bon, voilà.
L'argent des iPhones qu'on achète.
Alors ça, c'est de l'argent privé.
Ah.
Mais le CNM, c'est de l'argent public. Parce que la copie privée, comme son nom l'indique, c'est de l'argent privé. Et ça, c'est la loi de 85, c'est les OGC qui gèrent. Pas facile cette phrase, hein. C'est comme Shaman Slasher. Le CNM, c'est de l'argent public. C'est l'État, c'est un établissement public industriel, un EPIC. Alors, on va dire, oui, mais en fait, ce qui a relancé le CNM, c'est la taxe streaming. Oui, mais à partir du moment où cette taxe streaming, cette redevance affectée est rentrée dans le giron du CNM, c'est devenu de l'argent public. Donc l'argent public, on fait pas n'importe quoi avec de l'argent public. Et puis c'est pas inépuisable et tout le monde veut un peu ça.
Pour préciser, tu sais, la taxe streaming, c'est la fameuse taxe que certains appelaient anti-rap d'ailleurs. Et en fait, l'idée c'était aussi de financer le CNM.
Et là, il faut vraiment et c'est.
C'est pas anti-rap d'ailleurs.
Non, c'est pas anti-rap. Non, mais non.
C'était vraiment une erreur absolue.
Oui, pas du tout. Mais bien sûr. Mais non, mais c'était anti-rien. C'était juste, je pense, tout simplement anti-business.
Ah, ça c'est encore autre chose.
Voilà, parce que ce qui s'est passé derrière, la conséquence a été immédiate. Donc, les plateformes en ont profité pour augmenter leurs abonnements, retirer leur soutien par mode coercitif, et puis
Spotify en particulier, si tu veux.
Oui, mais Apple aussi. Hein. Donc chacun a dit. Alors attendez, nous on représente tel poids dans l'industrie et on s'est recollé sur la matrice de 85 avec des clés de répartition qui n'ont aucun sens. Bon, pardon, oh là là, ça y est, je vais avoir des problèmes. je reviens à ça, de dire comment ensuite on répartit cet argent et comment on se met en capacité. Ben on en revient à notre point de d'éducation, d'information. Beaucoup. Et tu parlais du rap, alors on va parler des musiques urbaines, même si les gens de la musique urbaine n'aiment pas dire qu'on sait de la musique urbaine, mais pour l'instant on n'a pas...
Le terme est problématique.
Oui, mais personne n'arrive à se mettre...
Nous on avait eu une proposition de Raphaël Dacruz, qui venait pas de lui d'ailleurs, qui citait des chercheurs, et qui parlait des musiques hip-hop, tu vois.
Okay.
Bon, enfin bref.
Ça me va aussi.
On se comprend quand on dit urbain.
Oui,
voilà.
Moi tout me va. Et effectivement, on se retrouve à te dire, ah bah... on n'est pas éligible parce que qu'est-ce que demandent la plupart du temps les dispositifs ? Ils disent, bon, comme c'est de l'argent public, il y a des règles, donc on va financer des salaires, des cotisations sociales. Ben oui, mais le gars qui est seul avec son beatmaker, il y a pas de salaire, il y a pas d'orchestre, il y a pas 25 musiciens. Et dire, ah ben oui, mais alors, le studio, c'est chez moi. Ah ben oui, mais attendez, on va pas vous donner de l'argent et la quadrature du cercle, et on comprend pas. Donc, par rapport à ça, évidemment, se mettre vraiment dans les clous, dans la norme, même si c'est parfois un peu dur de dire « Ouais, attends, moi, j'aimerais bien garder mon identité artistique. » Mais c'est pas se dévoyer que d'avoir rempli les formulaires, de s'inscrire à la SACEM, à la DAMI, à la SCPP. Et d'ailleurs, cette jeune génération de musique hip-hop, on voit, moi, j'adore aller à des petits déjeuners où je vois des jeunes producteurs qui arrivent. Dites-nous ce qu'il faut faire, on va le faire, et les gars y vont, et petit à petit ça avance, et ça va vraiment dans le bon sens. Bon, là, on va considérer que si on revient sur nos points d'actualité, on sait pas du tout ce qui va se passer, et qu'il y a vraiment un souci par rapport à ça. Mais en tout cas, se mettre dans les dispositifs, si on veut aller sur ce genre de guichet, il faut se caler. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, sauf à renverser complètement la table et imaginer autre chose. Voilà. Et ça en part par, oui, de l'information d'abord. Moi, j'aime pas le mot éducation, c'est pour les enfants, c'est au départ, tu vois. C'est là, quand on commence à rentrer dans la filière, il faut avoir les bonnes informations et il faut accepter de les assimiler.
En tout cas, vous êtes artiste, compositeur, vous avez envie de vous en sortir avec votre musique, il y a le bouquin d'Olivier qui donne quelques clés, c'est pas mal. Olivier, il y a Olivier de Levagne, donc
aucun lien de parenté, mais en fait si. On l'a appris avant l'émission.
C'est vrai, c'est une idée, c'est la branche anglaise, les cousins.
Exactement. Ouais, oui. C'est la même famille. Voilà.
Qui m'en veut un peu parce que je lui ai pourri son hashtag de Levingue sur Instagram.
Ah bah la masse de tes fans.
Mais non, mais elle l'a changé. Du coup, elle a fait hashtag Cara de Levingue. Puisque je lui ai piqué le hashtag de Levingue. Tu n'as pas le droit. Bah c'est mon nom aussi.
Ah les familles. On a une tradition dans cette émission, Olivier, c'est de terminer avec les recommandations. Alors, on t'a pas prévenu à l'avance.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Mais on va commencer avec Daz, si tu veux. Un morceau, ça peut être un de tes morceaux, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas écouté ta musique.
Pourquoi pas, écouter.
Allez-y, streamez-la, ça vous allez me faire gagner de l'argent.
Donc, soit un morceau, soit quelque chose que t'aimes beaucoup, que t'as envie de faire découvrir, ce que tu veux. Daz, toi, t'as déjà une idée un peu de ce que t'as envie de faire découvrir?
Ouais.
Non.
Si.
Allez, dis-moi.
Un artiste qui s'appelle Seafood Sam.
Alors, t'écris comme ça, Seafood Sam.
Seafood Sam.
Comme la nourriture de la mer.
Ouais, exactement.
Et qu'a-t-il fait, Seafood Sam?
Seafood Sam, c'est un mec de Long Beach, du North Side de Long Beach, donc là où il y a Vince Staples, Huey Brice, etc. Nous, on connaît plus Long Beach pour le East Side avec Snoop, le Doc Pound, etc. Warren G, tout ça. Donc là, c'est la nouvelle école. Mm-hmm. C'est un morceau qui s'appelle Can't Take the Hood to Heaven. Je ne peux pas emmener le TX au paradis. Et c'est un artiste que je vous conseille d'écouter parce que c'est plutôt cool ce qu'il fait.
Allez, on s'écoute ça. The pressure is on. It's that new church suit with the fancy colognes. Gator boot stomping, two-stepping alone. Pop said, keep one in the head, you'll make it home. So, that's the only mission. Some say that boy bad. Mike Jack on the Pistons. Shoes tied, but I'm still tripping. Learn to walk around with a chip like it was written. Lord, that's my witness. Been gifted, no Christmas. Calling plays fourth and inches while you stuck on the benches. Rags to riches, we laugh at critics. Head in the clouds, I've seen past the limits. Gotta make my mama proud. I do it all to see Brunel smile. So, is
you in or you out? Tell me now, cause when it's time to rock, there's no back in now.
It was all good just a week ago. Your true colors arrive once you're feeling show. Need a piece of the pie before I let it go. Before I arrive in front of heaven's doors. It was all good just a week ago. Your true colors arrive once you're feeling show. Need a piece of the pie before I let it go. Before I arrive in front of heaven's doors.
C'est élégant ça.
C'est très élégant. Il y a donc une partie avec les cordes et tout qui s'envolent un petit peu et qui font leur taf.
C'est bien produit. Hein.
C'est très bien produit. L'album, c'est comment il s'appelle cet album? Il est sorti il y a pas longtemps.
Je vais retrouver ça tout de suite.
Voilà, Standing on Giant Shoulders. Franchement, si fout de Sam, bah écoutez, de toute façon du rap. Hein. Voilà.
Ouais, et puis il y a des accords majeur 7. Le majeur 7, c'est.
Ah, ça, c'est bien d'avoir des techniciens.
Ah oui, là, c'est vrai qu'on s'y voit un peu sur la
West Coast. Mais ouais, là, le majeur 7, tu mets tous les doigts, il y a toutes les notes, tu sens bien, puis de temps en temps, paf, tu mets une septième de dominante, ça te, waouh. C'est bon, c'est bon.
Est-ce que c'est pas c'est embêtant bon. D'être trop technicien?
Non, mais il a l'air d'apprécier encore, donc ça va.
Mais non, c'est bon, c'est bon. Et puis, du coup, la voix doublée avec le léger délai et tout, non, c'était bien.
On est d'accord, c'était bien produit.
Ah, c'est super. Ouais. Ouais. Non, c'est vachement bien. J'aurais bien aimé le faire.
Bon, toi, t'as, justement, quel est ta reco?
Ah, alors, moi, je vous propose... Saint-Tropez 1966, mm-hmm. d'Elia Derbyshire. Donc, en fait, c'est un morceau... Le groupe rend hommage à Delia Derbyshire, qui est une pionnière de la musique électronique et des synthés, qui n'étaient pas à l'époque des synthés, mais des systèmes à bande. Elle travaillait au BBC Workshop. Donc, on est vraiment dans les années 60. Être une femme pionnière de la musique électronique à la BBC. Déjà, tu dis, vas-y, bravo, bien joué. Et donc, il y a ce morceau qui s'appelle Saint-Tropez 1966. Donc, qui est, hommage à Delia Derbyshire. 1966, c'est mon année de naissance. Et il y a un côté, parce que c'est marrant, parce qu'il y a un petit peu ce côté un peu frais là dans ce que tu viens de nous faire entendre. Moi, j'adore ce morceau. Voilà. Donc tu vas le trouver.
Oui. Rappelle-moi le titre, l'artiste, pardon.
Donc ça s'appelle de Delia Derbyshire Institute. Je sais plus quel nom ils ont pris, mais avec Saint-Tropez 1966.
Delia Derbyshire Appreciation Society.
Voilà, c'est ça, absolument. Voilà.
Saint-Tropez 1966.
Bonsoir, il est 23h45, vous écoutez bien DLT et vous êtes à Saint-Tropez.
Ça me donne envie d'écouter ça dans un affalé dans un canapé ou avec une belle vue face à moi en sirotant quelque chose.
Saint-Tropez plutôt.
Je sais pas.
Ouais, du coup,
j'ai droit à une deuxième reco.
Allez, vas-y. Ah, vas-y,
ouais, parce que vous
normalement
savez...
non, Olivier.
Hein, je sais, oui, mais
ça fait déjà longtemps qu'on enregistre en plus là, mais vas-y.
Je suis bien d'accord, mais vous savez, moi, je fais un métier difficile. Il faut jamais hésiter à faire un petit peu de promo. Hein,
les oui, vas-y.
Donc, moi, je vous
sûr.
Suggère d'écouter le titre qui s'appelle Crystal Clear.
Très bien.
Extrait de l'album. Crystal Clear de Deep Forest et Olivier Delevingne.
Oh, ouais. Un de tes morceaux, mais évidemment,
oui,
il fallait nous le dire tout de suite si on pouvait. Ouais, évidemment qu'elle a accepté cette reco. Allez, on écoute ce que fait Olivier.
Mmh.
Alors là, moi, ça me donne cette fois-ci envie d'aller explorer des contrées lointaines.
Mmh, et on sent la petite vibe, tu vois, le continuum et tout le machin là.
Ah. Ouais,
ça, là, ça s'entend un petit peu.
Il y en a aussi.
Mais je précise d'ailleurs que c'est issu d'un album commun que vous avez fait avec Deep Forest. Absolument. Il y a plein d'autres morceaux à aller écouter.
Bah, Deep Forest. Quoi. Ouais, tu vois, tout à l'heure tu parlais des rencontres. Et ben voilà, ça c'est une rencontre avec donc Eric Mouquet faite au Synfest à Nantes. Hein. Synfest, si vous aimez les synthés.
On avait parlé avec Christophe. Bon, voilà,
allez-y. Ça va, ratez pas ça. Du petit fabricant, du fou furieux qui fabrique des synthés dans un carton à chaussures jusqu'à la dernière nouveauté d'une grande marque japonaise, c'est super. Et bref, on s'est rencontrés là avec Eric. On dit ouais, si on faisait un album ensemble, ouais, d'accord, ok, quand, bah t'as qu'à venir la semaine prochaine à la maison. Ouais, bah d'accord, je viens. Et c'est parti. Et, voilà. Et je suis arrivé avec plein de matos. Il y en avait plein aussi.
Magnifique.
Et on l'a fait à l'ancienne. On a dit bon bah on ne sortira d'ici que quand on aura un album.
Qui a pris du coup combien de temps à...
On a fait 3 sessions d'une semaine.
Ok.
Bravo.
Félicitations.
Et on s'est bien marré.
Pour se faire la complète de Levagne, on peut à la fois acheter le bouquin, l'album.
Oui, alors il y a un lot complet, absolument. Oui.
Disponible sur le site delevagne.com.
Oui, voilà, une offre promotionnelle, absolument.
Alors, pas celui-là, parce que c'est pas la même personne, c'est la même famille. N'hésitez pas évidemment à utiliser le code promo, bien sûr, qui s'affiche actuellement sur vos écrans.
Absolument. Et alors, et toi, ta reco?
Eh ben, écoute, oui, je termine avec ma reco. Alors, ça m'est déjà arrivé, je pense, mais je suis un peu comme tout le monde. Je découvre plein de morceaux à travers de la synchro, avec des séries, des trucs comme ça, etc.
Ouais,
Kate
Bush, moi.
Avec Kate Bush, par exemple. Non, je connaissais bien Kate Bush avant. Mais ça, par contre, je connaissais pas bien. Et c'est du Kamasi Washington.
Oui.
Puisque c'est le générique d'une série relativement récente, Sugar, de Apple.
Oui.
Et le morceau s'appelle Street Fighter Mass.
On l'avait conseillé dessus.
La série est pas mal. Étonnante, elle m'a plu après, un peu déstabilisante, pas tout est réussi, mais pas mal. Par contre, le générique tue et la musique de Kamasi Washington est absolument fantastique. J'avance un peu dans le morceau pour qu'il y ait le thème principal parce qu'il est vraiment très cool. Et c'est parti. Tu veux dire bon, ce funk brésilien,
ouais,
un peu, ouais, ça peut m'évoquer des artistes comme ça, effectivement.
Funk, bossa.
Mais c'est voilà très.
Commencer par Stevie Wonder d'ailleurs.
C'est vrai qu'il peut y avoir une bave un peu dans. Alors là, c'est plus un peu musique instrumentale,
oui,
etc.
Sûr,
tu vois, le morceau dure 6 minutes, etc. Et c'est issu d'un double album qui s'appelle Heaven and Earth, et l'album est très cool. Voilà. Kamasi Washington. Bon, c'est pas une grande découverte, hein, Kamasi Washington,
ouais,
mais
c'est marrant parce que c'est Street Fighter Mass, on me l'a déjà suggéré en stream aussi, en me disant, ouais, tu dois bien aimer ça.
Bah, si c'était récemment, c'est l'effet Sugar, ça, à mon avis.
Ouais, je pense. J'ai pas l'abonnement Apple TV Plus parce que je suis pauvre. Du coup, je pire.
Moi, je l'ai, c'est pour ça que j'ai regardé la série.
Moi, je la trouve par terre, grâce à mon oncle américain.
Ouais, ouais, c'est plus le genre délire aussi, ouais, tu vois. Bref, Olivier.
Mais c'est formidable. Ben, vous êtes super, je fais une petite photo pour moi. Là, parce
on est encore en pleine émission.
Mais c'est énorme.
Magnifique. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci, c'est super sympa de m'avoir invité.
Ultra intéressant.
C'est super intéressant.
On rappelle le bouquin d'Az, création musicale.
Technologie
du chaman au slasher.
Slasher.
C'est trouvable un peu partout. Tu disais, c'est aussi dans toutes les librairies, toutes les médiathèques.
Oui, etc. Absolument. Non, mais c'est, ouais, c'est un vrai livre, quoi.
C'est un vrai livre, hein,
quoi. Il y a 40 000 livres qui sortent par an, mais celui-là, dont celui-là.
Toujours moins que des morceaux de musique.
Toujours moins que des morceaux de musique. Hein. T'as raison, mais ça pèse plus lourd, hein.
Ouais. Un merci aussi, évidemment, à la bouclette.
Flavien et Sam.
Flavien et Sam. Iris a participé peut-être à l'installation.
Elle s'est installée, mais après, elle a fui sur sa bicyclette.
Ouais, bon, on la remercie pas.
Non, bon, on la salue quand même.
J'ai un message pour toi de la part de François, notre monteur, qu'on remercie et qui dit que Daz arrête de dire je ne les remercie jamais. Parce que tu dis oui, nous on le remercie, mais il ne les remercie jamais. Il dit je vous remercie officiellement. Donc c'est dit maintenant, Daz.
D'accord.
Et c'est tacite pour les prochaines fois. Il nous remercie à chaque fois. Arrête de pointer du doigt François comme ça. C'est pas quelqu'un d'ingrat.
C'est quoi, François? Tu nous remercies à chaque fois, mon gars. Et maintenant je le dirai à chaque fois que tu nous remercies.
Donc merci François pour le montage. Merci évidemment Thomann. Est-ce que tu achètes parfois chez Thomann, Olivier?
Jamais. Mais non, je blague, bien sûr, mais non, mais voilà, bah oui, mais
merci,
oui, oui.
Merci Thomann.
Tout le monde achète chez Thomann. Surtout qu'ils nous permettent de faire cette émission incroyable.
Yes.
Merci à vous aussi. Allez mettre un petit commentaire, une petite étoile. On se retrouve dans 15 jours. Nouvelle invitée. Profite. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On sait pas.
Pas.
On sait pas. Non, mais ça, en fait, ce sera déjà passé. Cet épisode ne verra pas le jour.
Si ah ouais, okay. Alors, si on se retrouve dans 15 jours.
En fait, c'est le premier épisode de l'an 1.
De l'après, ouais. Okay.
Voilà. C'est l'épisode d'après.
Vous le savez, nous, on sait pas.
Ouais, c'est vrai.
Bon, on se retrouve. Je pense qu'on sera là dans 15 jours. Ça sera bien aussi, vous inquiétez pas. Ciao.